seasons change, they rearrange the way I feel. Don't know if you do, but this all seems so surreal. I want to slow.
Ok, on se cale la prochaine. Prochain morceau pour la petite pause café dans 1h30, 2h. On va voir ce que ça donne. Et puis on démarre cette petite. Waouh! Elle est bien cette intro. Waouh! N'en écoutons pas plus, c'est plein de promesses. Rendez-vous dans 1h30, 2h pour cette petite pause café musicale. Ouh, cette petite barbe de vacances. Ouh, on se relâche. Comment ça va, vous? Il est 8h40 chez vous, il est 7h40 ici, on est, oui, je vois plein de petits drapeaux marocains, salut DTR SAD 95, ouais, tu ne t'es pas trompé, d'ailleurs c'est écrit dessous en même temps, la matinée Étienne, on lit les journaux ensemble, depuis le Maroc, c'est pas parce que le corps est en vacances que l'actu est en vacances, c'est ce que j'ai tweeté aussi tout à l'heure avec une belle photo du ciel marocain derrière moi, ça va vous? Bien? Bien? Ouais, une petite heure de décalage. J'ai vu plein de belles choses dans le chat, comme Ducati et Macaron tout à l'heure, habitués de cette chaîne. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une meilleure nuit que la mienne. Alors, belle chose, oui, attendez. Première rhinite de mon fils, oh, nuit blanche à base de pleurs et lavage de nez. C'est pas grave, c'est bien, c'est la vie. Devinez qui passe son temps à sourire et qui ne dort. Oh, c'est trop chou, c'est trop chou. Devinez qui passe son temps à sourire et qui ne dort toujours pas depuis le lever du jour. Oh, mais si, c'est chou en fait, c'est fatigant, mais c'est ça. C'est la vie, c'est beau. Bienvenue à MMG7F, pas sur cette chaîne parce que c'est un habitué, mais MMG7F qui, fidèle de cette chaîne, nous a demandé hier s'il pouvait devenir modérateur. Et après un rapide échange, eh bien, la réponse a été oui. Voilà un nouveau modérateur sur cette chaîne, j'en profite pour saluer ceux qui sont déjà connectés. Donc MMG7F donc, qui va étrenner son rôle de modo aujourd'hui, et Julo18 toujours parmi les premiers, ainsi que Nightbot. Bien sûr, que ferions-nous sans Nightbot? Bien sûr, vous savez que je suis devenu le roi de la programmation de Nightbot. Comment ça va vous? Je vois un petit peu de vos nouvelles et puis on va commencer la revue de presse dans un instant. Merci Guillaume pour le 8e mois d'abonnement. Tu es le premier à sub ce matin. Merci de ton soutien depuis le Maroc. Alain, oui, c'est écrit là, depuis le Maroc. Là derrière moi, c'est le Maroc. Après, le Maroc, c'est grand. Hein, donc je suis quelque part dans le Maroc où j'ai des attaches familiales très fortes. Donc c'est un pays que j'aime beaucoup. Je viens assez souvent. Et voilà, où je pourrais vivre d'ailleurs si mon activité professionnelle ne me demandait pas d'être autant à Paris. Mais en vrai, c'est. C'est un pays où je pourrais définitivement vivre. Être ensemble tous les matins, c'est vraiment un gros kiff. Oh, merci Remex, c'est adorable. Coucou. Ah, on nous regarde d'Irlande, salut. Anne de Dube, oh, trop sympa. Son fort et clair. Ouais, je suis assez content de ce son avec ce casque. Casque que j'ai déjà pas mal utilisé dans mes lives à l'extérieur. En direct. En direct de Corse, en direct du Maroc. Puis j'ai fait un petit réglage différent, j'ai ajouté un préampli sur ce micro, le préampli que j'utilise aussi à Paris sur mes micros, et qui permet de gagner en puissance et de perdre en souffle. Donc on est arrivé à un résultat super intéressant. Bonnes vacances Lou Actu. Bonjour, oh comment ça va? Très content de pouvoir te regarder pendant les vacances, salut, ça va? Ah, c'est bien ça. Didoun Braise me dit, as-tu remarqué que maintenant, non, j'avais pas remarqué, que maintenant les abonnés du journal Le Monde, dont je suis, peuvent écouter tous les artistes, l'article. C'est à mon sens une petite révolution. On peut écouter à pied, en voiture, vraiment top. Ah ouais, c'est bien ça. La classe, j'avais pas vu ça. C'est-à-dire que quelqu'un, ah c'est peut-être une IA qui lit tous les articles. Waouh, je vais aller écouter pour voir comment c'est. Du café a été renversé sur une chaise de la matinale de France Info. Il vaut investiguer, me dit Sushi Poops. Est-ce que c'est toi qui leur as laissé un souvenir? Non. Parce que je suis très maniaque, moi. Et je ne renverse pas de café. Donc en plus, je ne suis pas là-bas, donc je ne suis pas fautif. Mais on va enquêter alors. Le soleil débarque dans mon lit. C'est un petit poème écrit par Elzo, il a fripouille. Et Samuel est en live, c'est parfait la vie. Vous êtes adorable. Ouais, Pimpo Troche, j'ai vu cette série de tweets postée par Magla hier. Tout à fait. Extrêmement intéressant. Ça m'a plongé dans un abîme de perplexité ce matin. Exactement. Qu'est-ce que je pense des pâtisseries marocaines, Break 09, que ce sont à la fois nos meilleurs amis et nos pires ennemis. Meilleurs ennemis pour le palais et puis pires ennemis pour le ventre. Voilà. Donc j'en mange un petit peu, même tous les matins au café, mais en petite quantité, sinon c'est une catastrophe. Et on rentre plus dans les pantalons de costume après. Et comme je suis un gros rat et que j'ai pas du tout envie de m'acheter de nouveaux costumes, eh bien, je me condamne moi-même à ne pas prendre de tour de taille, ce qui est très compliqué, surtout quand on est au Maroc. C'est pas ma maison, la calvitie de pape, c'est pas ma maison. Je serais très heureux d'avoir cette maison, mais ce n'est pas ma maison. Allez, je vous lis un petit peu encore, parce que ça m'aide bonne humeur. Je vois un bonjour de Belgique. Salut, Kouaiti. Lolo le capitaine, bonjour Sam, est-ce que un jour tu pourrais nous faire un sort de behind the stream pour nous présenter tout ton matos? Oh, tu sais, ça n'a rien d'exceptionnel. Hier je vous ai montré d'ailleurs, je peux vous montrer rapidement. Là c'est mon matos de stream portable, celui qui voyage, donc c'est très léger. Alors, je stream déjà avec un PC portable, voilà, donc très 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 léger. Tu vois, ça c'est ce portable-là. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a un petit Mac à côté qui me sert de deuxième écran pour gérer l'interface Twitch. Voilà, ici je gère OBS bien sûr, mon logiciel de stream. Ici j'ai un petit boîtier 4G qui me sert à choper de la 4G parce que je suis dans la campagne marocaine, j'ai pas la fibre. Et mon Mac est connecté à cette 4G là avec un opérateur marocain. Et j'ai un autre boîtier ici qui est un peu plus costaud, relié en RJ45. Hop, chut. À mon PC principal pour plus de stabilité avec un autre opérateur. Waouh, une multiprise très important. Alors ça, la multiprise, si t'as pas la multiprise, t'es foutu. Hein. Pour connecter diverses choses. Mon iPad ici sur lequel je lis les journaux. Voilà. Il y a du Libération à la une ce matin. Et puis alors list but not last, ou last but not least plutôt, la table de mixage très importante. Voilà, pour avoir une bonne qualité de son. C'est la table de mixage que j'utilise le vendredi aussi. Vous voyez, il y a 4 pistes. 1, 2, 3, 4 pour avoir jusqu'à 4 micros. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. Ici, un écran supplémentaire que j'ai pas réussi à connecter. Un pied que j'ai amené mais qui ne me sert pas. Voilà. C'est très très light. Hein. Très très light. Voilà. Du coup, j'ai remis la caméra sur le PC. On va refaire le 4 qui était assez joli. Ouais, c'est joli comme ça. Voilà. C'est bien là? Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ça va? Voilà. Behind the stream, il est là. Alors à la maison, je stream avec un setup un peu différent pour la matinée étienne, mais pas beaucoup plus lourd en fait, c'est à peine plus lourd. Et le vendredi, quand je reçois trois invités, bon bah là, quatre micros, trois caméras, un PC un peu plus important, et Joe à la réalisation, parce qu'elle là, il me faut un réalisateur. Voilà. Donc, oh, bah non, c'est pas possible. Il y a MMG7F, notre nouveau modo, qui part déjà. Le boulot m'appelle et je vais enchaîner des réunions programmées ou impromptues. Bonne journée, rendez-vous demain soir pour l'événement. Passe décisive de l'ami MMG7F, merci à toi. Effectivement, demain soir, mercredi, épisode 2 d'Emmanuel Macron, le président de la République, invité de l'événement, la nouvelle émission politique de France 2. Il y a 15 jours, on a fait le volet 1, donc c'était en direct sur France 2, interview par Caroline Roux, essentiellement sur les questions internationales et beaucoup sur la guerre en Ukraine. Et ce soir, c'est le deuxième volet. Ça fait très longtemps que le chef de l'État n'était pas venu sur France 2. Deuxième volet, essentiellement consacré à la politique intérieure, enfin aux affaires françaises. Ouais. Et ça, c'est donc demain soir, mercredi, juste après le 20h d'Anne-Sophie Lapix. On est sur France 2, c'est le service public. Donc 20h30, mais en fait, c'est plutôt 20h20, pour être précis. Et comme eh ben, j'ai de bonnes relations avec mon employeur qui m'accompagne avec beaucoup d'intelligence sur tout ce que je fais sur Twitch et beaucoup de compréhension, voilà, j'avais vraiment du bol en fait. Je pense que je n'aurais pas cette liberté et cette qualité d'accompagnement forcément partout. Eh bien, France 2 m'a autorisé à streamer, à faire un live React demain soir, ce qui nous permettra de regarder ce rendez-vous politique en direct ensemble et de le commenter ensemble. On fera des micro-pauses pour commenter quelques-uns des mots qui nous sembleront peut-être importants du chef de l'État et on fera un débrief après. Rendez-vous, on va dire 19h30, une petite heure avant, 19h30 demain soir, pour un petit before, pour voir un petit peu les enjeux, peut-être lire un ou deux articles sur le contexte d'actualité de cette intervention du président de la République. Ensuite, on regarde, ça va durer 1 heure, je pense. C'est à peu près ce qui est prévu. Je fais des petites pauses de quelques secondes parfois quand quelque chose me semble important pour le mettre en exergue. J'adore ce mot. Mettre en exergue. Ah, oh, j'adore. Comment je me la raconte? Et après, on fera un débrief. Pendant, je pense, 1 heure, quoi. Voilà, ça c'est demain soir. Merci. MMG7F pour cette passe décisive. Je vous lis un petit peu. Est-ce que tu lis les journaux en digital? Oui. Quand je suis à la maison, je les lis en digital. Je les télécharge, je les achète chaque matin, un par un. Et puis je les lis en digital sur ma tablette. Voilà. Quoi, il y a Joe qui est dans le chat? On me dit que Joe Coco est dans le chat. Joe qui est au Japon en ce moment. Mon partenaire de crime. Ah oui, il y a Joe qui est là. Ok, c'est cool. Ça... Joe qui nous regarde depuis le Japon, mais on vit vraiment. C'est le métavers. Hein. C'est le métavers. Ah, d'ailleurs, j'ai fait un tweet assez intéressant sur ce métavers. Je vais vous le montrer dans un instant. C'est le métavers. Hein. Je suis au Maroc. Beaucoup d'entre vous êtes en France, mais j'ai vu aussi en Irlande ou ailleurs. Et on nous regarde depuis le Japon. Ok. Merci Groutika pour le 6e mois d'abonnement et pour le très gentil message. Merci. Oh. Ça me fait plaisir que l'émission du vendredi vous plaise. L'hebdo Étienne, on en a fait 9 déjà. Voilà. Alors petite pause cette semaine parce que je serai ici. Je ne vais pas faire venir mes invités au Maroc, mais ça reprend bien sûr la semaine suivante. Voilà. J'ai déjà calé. J'ai commencé à caler les invités. Ça me fait vraiment plaisir que vous appréciez cette émission. Lenny. Justement, j'ai vu ton tweet sur le métavers. J'aimerais bien te donner un autre son de cloche sur le sujet. Alors, si c'est le Lenny que je connais, je comprends pourquoi. Parce que si c'est le Lenny qui connaît très bien cet univers, avec qui j'ai fait des choses en direct à Roland-Garros, avec les amis de France Télévisions, je comprends que tu aies eu envie de m'en parler. Mais c'est peut-être pas le même Lenny. En tout cas, merci pour le 4e mois d'abonnement. Léger, mais ça prend combien de valises pour transporter tout ça? Lou actu sur le setup, une petite valise de cabine. Vous savez, les petites valises petites qu'on a le droit d'emmener dans les avions, et non pas dans la soute, hein, mais dans le truc bagage là. Ben, en fait, tout mon setup de stream, quand je bouge, en fait, il tient une petite valise comme ça. Donc, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. J'ai des petits yeux, ouais. Même en vacances, je dors pas beaucoup. Es-tu au courant du sabotage des 3 câbles Internet sous-marin au niveau de Marseille? Non. Mais Yandereco, comme tu n'es pas le premier à m'en parler, j'ai très envie d'aller voir de quoi il s'agit parce que quelqu'un me disait, j'espère que ce sabotage ne va pas t'empêcher de streamer. Alors, du coup, ça m'intéresse. Sabotage. Allons voir de quoi il s'agit. Marseille. Oh là là, tu tapes sabotage sur Google, t'as sabotage Marseille qui arrive direct. Ok. Cherchons une source. D'infos un peu. Ah, c'est il y a 2 jours. C'est il y a 2 jours? C'est ça? Sabotage à Marseille, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Attendez, j'ai un article là. Bon, ça paraît grave, 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 grave. Ouais, ça paraît très grave. Regardez l'article que j'ai trouvé, je vous montre. Est-ce que vous l'avez si je fais ça? Ouais. Alors, je vous montre où j'ai trouvé cet article. La source, c'est un site qui s'appelle ZDNet. ZDNet, ok. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. En fin de semaine dernière, Dans la nuit du 17 au 18 octobre, vers 3h du matin, un segment de la fibre backbone qui véhicule l'Internet occidental depuis le nord de l'Europe jusqu'à Marseille a été sectionné à proximité d'Aix-en-Provence. De quoi ralentir le trafic Internet durant quelques heures avant retour à la normale. Cet incident montre surtout pour Fabrice Coquiot, qui est le directeur général d'Interxion France, qui opère plusieurs data centers dans la ville à Marseille, que ça montre surtout la forte de résilience de l'Internet et des télécoms. Okay. Sabotage. Bon, ça n'a pas l'air très grave. La coupure a eu lieu dans une chambre de tirage près d'Aix, à la scie sauteuse. Voilà, c'est un sabotage avéré, c'est pas un arrachage fortuit. Effectivement, quand tu viens avec une scie sauteuse, a priori c'est pour couper. Hein. C'est drôle. D'accord. Ok, bon, ça n'a pas l'air si grave que ça. Hein. Bon, c'est intéressant en tout cas. Je continue à vous lire parce que ça me met de bonne humeur. Ça, c'est rien. Il y a un petit chien ici qui est très gros en fait, mais son nom c'est Petit Chien, qui aime beaucoup les humains et qui fait des gros câlins. Sauf qu'il est très très grand et donc il a voulu me faire un bisou avec la gueule grande ouverte. Et ça, c'est une de ses dents qui s'est plantée dans mon nez. Ce qui m'a permis d'ailleurs de faire une deuxième moitié de stream avant-hier avec un pansement. Pas de patrouille sur le nez, c'est en replay. Vous allez vous régaler. Donc, c'est rien. C'est une rencontre amicale et affectueuse entre mon nez et les crocs d'un chien. Très gentil. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Est-ce que j'ai mangé un tagine au Maroc? Oui, j'ai mangé déjà un tagine végétarien. Ok. J'ai sûrement raté l'info, mais pourquoi tu es au Maroc, Samuel? Parce que j'ai des attaches familiales dans ce beau pays, et c'est un pays où, hors crise sanitaire, on vient souvent. Voilà. Merci Adarax. Grâce à votre super soutien, j'ai réussi mon oral d'admission pour mon concours de la fonction publique territoriale, me voilà futur fonctionnaire. Bon, je ne suis pas sûr que j'y sois pour grand-chose. Si tu le penses un petit peu, tant mieux, ça me fait plaisir. Mais voilà, moi ça me fait plaisir de vous parler d'informations. Adarax, merci. Je ne suis pas sûr d'avoir joué un grand rôle là-dedans. Évidemment, je prends 10% de ton salaire annuel, comme d'habitude. Hein, vous savez que c'est un peu la règle ici. Tout succès un examen ou tout nouvel emploi chopé, en partie grâce aux actualités que je vous raconte, entraîne, voilà, petit prélèvement indolore de 10% à vie, hein, de votre salaire. Mais bon, ça, c'est voilà, ça me semble. Enfin, personne n'en débat, hein, c'est pas vraiment c'est pas un débat, c'est pas un sujet, c'est voilà, c'est naturel. Voilà, vous aussi d'ailleurs. Donc merci, 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 merci. Un petit débat sur le vote de la motion de censure NUP par le RN, mais carrément, c'est prévu, c'est dans les journaux de ce matin, c'est dans Libération, bien sûr. Comment on fait si c'est un date Tinder? Ah, j'avais pas pensé à ça chez une Spooky. C'est-à-dire que si vous arrivez à trouver l'amour grâce à moi. J'avais pas pensé à ça. Bah, vous savez quoi? C'est cadeau. Si vous trouvez l'amour grâce à moi, c'est cadeau. Voilà. Voilà, c'est pour moi. Et puis c'est pour moi ça. Voilà, voilà ce que c'est d'avoir un grand cœur. C'est pour moi. Non, 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 n'insistez pas. Non, non, c'est pour moi. C'est pour moi. Non, 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 je vois des propositions liées à des habitudes du Moyen-Âge. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas. Non, merci beaucoup. Non. Non, 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 non. Vous êtes des grands malades quand même. Ça va pas du tout, quoi. Voilà. En tout cas, je vous rappelle que, et ça a été scientifiquement prouvé, regarder cette chaîne régulièrement garantit le succès aux examens, garantit de trouver un emploi, un premier emploi ou un meilleur nouvel emploi. Voilà, ça c'est scientifique, il y a des études là-dessus. Merci à Miguel pour les bits, merci Baby Pilot pour le 14e mois d'abonnement, ça claque. Et je vois ton soutien à Magla. Ouais. Moi, je vais continuer à me pencher sur cette histoire de Magla, je trouve ça très intéressant. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et le retour de l'être aimé. C'est-à-dire que si vous perdez l'amour à un moment, si à un moment monsieur ou madame s'en va, eh bien, regardez régulièrement cette chaîne, vous garantit le retour de l'être aimer partie. Enfin, supposer que vous le souhaitiez, bien sûr. Voilà, ça c'est aussi, c'est scientifiquement prouvé. Ceux qui n'ont pas d'être aimé à perdre, puisqu'ils sont tout seuls, eh bien, regardez régulièrement cette chaîne, peut vous apporter l'amour aussi. Ça aussi, c'est très étrange d'ailleurs, mais scientifiquement prouvé. Voilà. Oui, la repousse des cheveux aussi. Oui, j'avais oublié d'extraire. La repousse des cheveux. D'ailleurs, j'en suis le témoin, puisque plus je stream, plus j'ai de cheveux. Et ça, c'est incroyable. Et je vous ai remarqué à mon épouse hier, pas plus tard qu'hier, j'avais une glace, j'avais un miroir près de l'endroit où on déjeunait, et je me regardais comme ça, et je dis: Hélène, c'est incroyable, j'ai de plus en plus de cheveux, quoi. Et je lui dis, parce que j'essaie comment dire, de justifier le temps que je passe sur Twitch, je lui dis: ça, chérie, c'est Twitch. Ça, il y a une coïncidence incroyable entre ma repousse de cheveux et mon nombre de streams. Donc, elle m'a dit: bah, let's go alors. Malin, hein? Voilà. Ouais, les cheveux aussi. Ouais. Je veux bien ta bénédiction pour trouver un job étudiant Lascaux. Je te la donne, je te la donne. Je te la donne. Vous êtes bête. Il y a Ben Terre qui écrit dans le chat: j'ai rencontré ma femme dans le chat de Samuel Etienne. Puis moi je lis un peu innocemment et j'étais en mode: ah ouais, super. Depuis, nous avons deux enfants que nous avons appelés Samuel et Étienne, et elles ne comprennent pas pourquoi. Meilleur tweet de ce matin. Vous êtes des malades. J'adore. J'adore. C'est bon ça. Oh. Elle était bonne celle-là. Oh, c'est trop fort. Bon, bah, on va faire un petit sommaire alors. Vous avez vu, ça c'est. Non, c'est de l'autre côté. Ça c'est un love. Love. Un love. C'est joli, ce petit love rouge là. Voilà. Ah, la luminosité est en train de monter derrière. La lumière arrive. Bientôt, vous ne verrez plus rien derrière. Vous verrez que mon visage. Voilà. Bon, en même temps, c'est pas mal. Bon, après cette intro très chill et tout en douceur, et si on fait un petit sommaire, ça vous parle? Ça vous va ou pas? C'est quoi l'info? J'ai l'impression que vous voulez qu'on parle un petit peu de l'info avec Magla. Bon, alors moi j'ai pas eu le temps de. J'ai pas eu le temps de me pencher dessus longtemps, mais je vais quand même vous donner l'info pour ceux qui se posent la question. Donc Magla, c'est une des streameuses les plus connues en France. Voilà, et elle a fait un post sur Twitter que je vais vous montrer pour vous montrer de quoi ça parle. Puis après, on ira voir mon rapidement sur. Voilà, normalement vous avez le compte Twitter de Magla, on se suit tous les deux. Et je crois que c'est son post, il est là. Voilà. Magla en fait qui a posté ça à hier soir. 10h33, je suis fatigué. Il est temps que je vous explique des années que je stream et j'ouvre ma gueule sur 10% max du problème, parce qu'apparemment faut ignorer pour que ça passe. Dans la vie de tous les jours, écrit Magla, je m'habille en oversize, donc des vêtements très amples, parce que j'aime bien, mais je mets aussi des crop tops ou des décolletés. Bah, Magla, elle fait ce qu'elle veut, bien sûr, comme toutes les femmes, elle a le droit de s'habiller exactement comme elle le veut. Pour ceux qui n'ont pas encore compris ça, très souvent je me change avant mon live. Parce que flemme des remarques, mais également d'autres choses. Bienvenue à vous dans ce que je vis, H24. Donc là, je vais pas vous montrer les photos parce que même si c'est flouté, bon, ça parle de choses un petit peu. Voilà. Et elle résume ça ici. Il y a des pages entières de gens qui font du RP sexuel en se faisant passer pour moi, qui font les topics entiers sur un bout de peau qui dépasse, ou de trucs qu'ils trouvent hot alors que vraiment il n'y a rien. Des montages également sur des corps d'actrices porno. Bref, j'en passais des meilleurs. Magla détaille tout ça dans son tweet qui a été posté hier soir, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça l'histoire. Et ça a eu beaucoup d'échos, hein. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de likes, de tweets cités, de retweets, mais voilà, c'est un tweet qui a notamment fait beaucoup réagir dans le monde de Twitch, et beaucoup de streamers, de streameuses ont apporté leur soutien à Magla. Voilà. Cet honteux, Dikini You, bah oui, tu m'étonnes. Ouais, je suis en train de vous lire. Bonjour et merci Samuel d'en parler. Son fil Twitter est d'utilité publique. Mais oui, c'est le qui, tu as raison. Merci NubiOne pour ce 14e mois d'abonnement. Riku, y a Riku, je comprends rien de ce que tu dis. Riku, en direct du Maroc, encore des expatriés ici, les mecs se disent de gauche. Je comprends rien de ce que tu dis. C'est quoi Riku? Tu mélanges tout? Quelle heure il est chez toi pour que je comprends pas ce que tu dis. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'il dit Riku? Je comprends rien. C'est de gauche, expatrié, en direct du Maroc, c'est expatrié, je suis pas expatrié. Qui raconte, chouchou? Qu'est-ce qui raconte? Qui dit? Qui dit? Je sais pas, explicite, je sais pas si c'est de l'humour, si c'est une analyse, je comprends rien. Précise, si c'est intéressant, sinon ne précise pas. Anonyme 31, modératrice sur cette chaîne, c'est important d'en parler parce que la plupart des hommes ne se rendent pas compte du harcèlement au quotidien et partout, y compris sur Twitch, y compris pour les viewers. Ouais. C'est fou, hein. S'il n'y avait que Magla, me dit Narco, malheureusement, ça touche toutes les femmes connues, stars, chanteuses, streameuses, journalistes, c'est vrai. Valentina, c'est grave, moi qui veux streamer, ça me fait un peu peur. Il y a vraiment des gens. Givré. Il pense que tu as déménagé pour défiscaliser? Ah. Pas envie de commenter là. Je suis fatigué là. Je suis fatigué là. Ah, on va. Non, hein. Merci Anatar 1997 pour le 3e mois d'abonnement. Comment lutter contre ça en s'habillant encore plus comme elles veulent? Bah, comment lutter contre ça? À changer le logiciel qui bug dans la tête de plein d'hommes en fait. Il n'y a que comme ça en fait. Xino92, est-ce que quelqu'un voit une solution à cela? Bah oui, si je puis me permettre, en parler encore, voilà. En parler encore, en parler entre nous, en parler aux autres, pour espérer que ça infuse un petit peu, en fait, dans la tête de ces garçons qui ont pas compris comment ça marchait, quoi. Et comment, en fait, il fallait laisser les femmes tranquilles, en fait, tout simplement, de vivre leur vie, quoi. Mais on va y arriver, on va y arriver, hein. La jungle de l'Internet, me dit KB Ninja. Oui, c'est vrai, mais bah, Internet n'est qu'un outil, n'est qu'un reflet de ce qui se passe vraiment dans la société. Hein, demander aux femmes et aux jeunes femmes et aux filles ce qu'elles vivent, ne serait-ce que dans la rue au quotidien, quoi. Hein, donc c'est pas le problème, c'est pas. Alors évidemment, il y a le pseudonymat sur Internet qui encourage la lâcheté de certains et à se comporter d'une manière qu'ils n'oseraient pas embrasser. Dans la vie quotidienne, mais disons que ça n'est que le reflet de ce qu'il y a dans la tête de bien des hommes à la base, quoi, en fait. Hein. Celle qui dit, bah oui, l'éducation, bah oui, bien sûr. C'est peut-être un truc qui doit commencer dès l'école, d'ailleurs. Hein. Et dans les familles aussi. Je pense que dans les familles aussi, les parents ont un rôle important par rapport à ça. Et rappeler aux gens que c'est pas parce que tous les hommes sont pas comme ça qu'il ne faut pas en parler et inviter à la remise en question. Ouais, je suis d'accord. Je relis cette phrase d'ailleurs. L'éducation est rappeler aux gens que c'est pas parce que tous les hommes ne sont pas comme ça qu'il faut pas en parler et inviter à la remise en question. Ouais. Éduquons nos garçons, voilà, Canard Tichou. Les réponses, on les a en fait. En parler, oui, mais à un moment, il faudrait des sanctions suffisantes contre les harceleurs, me dit Clornas. Je suis d'accord. Éducation durant la scolarité, dit Buddy Valjean. L'éducation sexuelle durant la scolarité. C'est vrai. Il y a MC Bass qui a écrit: quand je vois devant des streams de débat à l'Assemblée nationale de Jean Massier. Oh, Jean, il a tout cassé hier avec son stream consacré aux motions de censure aux deux motions de censure, on va en parler ce matin, déposées suite au 49-3. Quand je vois devant des streams de débat à l'Assemblée de Jean Massier les commentaires lorsqu'une femme prend la parole, le manque d'éducation en France est terrible, dit M. Bast. Quand on voit que même au sein de l'Assemblée, on a des comportements sexistes comme ça, comment veux-tu qu'après on ne retrouve pas ça ailleurs? Inforea, streamer qui est avec nous. Je connais des streameuses petites, moyennes chaînes qui sont en pause, voire ont complètement arrêté à cause de ce qu'on est en train d'évoquer. C'est une charge mentale de fou. Ma copine, ça lui est déjà arrivé d'avoir des détraqués qui passent sur son stream. Ah, il y a Riku machin là sur le Maroc qui rajoute. Tu sais ce que je veux dire, Samuel? Bah non, c'est le problème, c'est que. L'histoire de, vous savez, le garçon qui a écrit un tweet dans lequel il y avait expatrié de gauche et Maroc. Enfin, personne n'a compris. Et donc le garçon dit, tu sais ce que je veux dire? Bah non, justement, c'est parce qu'on comprend rien à ton message qu'on t'en demande un peu plus. Écoute, mais t'es bourré ou quoi? C'est quelle heure il est? Une fin de soirée? Quelle heure il est chez vous? 8h09? Ah, c'est peut-être une fin de soirée. Ça arrive. Je pense qu'il y a un problème de modération sur la plupart des plateformes pour protéger les femmes, dit Kenen TV. Je pense qu'il y a toute une génération qui est fucked, me dit Eglantine 13. Oh non, c'est pas une question de génération, je pense que ça a toujours été comme ça. C'est juste qu'on en parle plus aujourd'hui. Et que ça, c'est un progrès par contre. Merci CCR95, comment ça va? Merci pour le 7e mois d'abonnement. Ok. Quelle heure il est? 34 minutes. Oh, on va peut-être faire un. De faire un petit sommaire, vous en pensez quoi? Ça vous va? On y va? Alors, est-ce que ma tablette est branchée? Est-ce qu'on fait un petit sommaire pour vous dire de quoi on va parler ce matin? Est-ce que ça vous va? Let's go ou pas? On se dit qu'une petite intro de 30 minutes tous les jours pour prendre des nouvelles, c'est très très bien. Mais peut-être qu'à un moment, il faut quand même lire les journaux. Aline, je te fais un coucou. Samuel, est-ce que tu peux passer un coucou à ma j'aime, je pense que tu as dit ma femme, je pense Aline, elle va bientôt accoucher, bravo, félicitations à tous les deux. Dibab, c'est Dibab Frousciante, ton pseudo, je pense que je prononce très très mal. Aline, un grand coucou et félicitations à tous les deux. On y va? C'est parti? Eh ben on y va. Eh ben c'est parti. Allez, c'est parti pour le sommaire. Alors d'abord, est-ce que la tablette marche? Alors, est-ce que ça marche? Non, il faut que je relance mon petit logiciel de capture d'écran qui n'aime pas du tout quand je le laisse inactif, en fait. J'ai remarqué ça. Ah ah, et ça va apparaître. Mais si tu vas marcher. Mais bien sûr que si tu vas. Bien sûr que si tu vas marcher. Mais si, aucun signal. Mais si t'as un signal. Mais bien sûr que t'as un signal. Je lui parle, bien sûr, je lui parle, ça lui fait du bien. Regarde, je te branche, je te rebranche, je connecte, je déconnecte. Alors, tu veux ou tu veux pas? Mais voilà, dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Vous êtes prêts pour le sommaire? Carboc 33, allez, de l'info positive. C'est pas le journal des bonnes nouvelles ici, c'est pas. Il paraît qu'il y a, comment ça s'appelle une nouvelle version des Teletubbies qui vient de sortir ou qui va sortir sur une plateforme de streaming. Donc les bonnes nouvelles, c'est de ce côté-là, mais hélas, l'information, j'essaie de vous en trouver une de temps en temps, mais en soi, vous donnez que les bonnes nouvelles à travers le monde, je veux bien, moi, hein, ça peut vous donner le moral, mais en fait, moi, je pense que il vaut mieux plutôt parler de ce qui ne va pas pour essayer de l'arranger, plutôt que de se dire, ah, mais dis donc, il y a un machin là qui a lancé l'entreprise de sabots dans le Jura. C'est vachement bien. Oh mais quelle sympathique initiative, dis donc. La récupération de tous les papiers d'aluminium dégoûtés des élèves de 3e de l'école Sainte-Marie de la Foi à Laval. Mais c'est excellent, bravo. Bon. Non, voilà, on pourrait faire ça, mais non, non. Les mauvaises nouvelles, c'est intéressant en fait, parce que ça nous montre ce qu'on pourrait améliorer dans notre monde en fait. Voilà. On y va? Allez, petit sommaire. Let's go. Masterclass de libération comme souvent. Voilà, alors le problème c'est que j'ai pas compris tout de suite le titre parce que j'avais pas vu qu'il fallait lire comme ça. Voilà. Libération ce matin, l'emmerdeur. L'emmerdeur c'est Sarkozy. Il se trouve que dimanche, moi je vous ai lu une longue interview de l'ancien président de la République dans le JDD, le journal du dimanche. Ouais, où il dit plein de choses, et notamment où il confirme tout le mal en fait de ce qu'il pense de son propre camp, c'est-à-dire de la droite, et tout le bien qu'il pense du président Macron. Du coup, c'est l'emmerdeur pour Libération, l'emmerdeur vis-à-vis des nouvelles figures de la droite. Sarkozy et LR, coup de griffe à son parti, appel du pied à Emmanuel Macron. Pourquoi d'ailleurs il est aussi sympa avec Emmanuel Macron? Des réponses dans le dossier, c'est super intéressant. L'ancien président embarrasse chaque jour un peu plus les républicains qui veulent tourner la page. Voilà ce dossier. Entre Sarkozy et la droite, le temps des tempêtes. La rupture semble consommée entre l'ancien président qui ne cache pas sa proximité avec Emmanuel Macron et le parti qu'il a créé, au point que celui qui a longtemps été indispensable devient l'épouvantail de la droite. Alors moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, et notamment sur. Mais pourquoi est-il si sympa? Avec le président Macron. Pourquoi Nicolas Sarkozy est-il si sympa avec le président Macron? Il y a des éléments de réponse apportés par Libération qui sont intéressants. Ah, Ducati et Macaron, qui a un petit bonhomme à la maison, nous dit qu'Arthur dort enfin, que tu peux enfin te faire un café et le regarder dormir, c'est trop mignon. Alors, tire, si le journal Le Trésor de Jean-Pierre Pernaut était le plus suivi, c'est justement parce qu'il faisait ça. Hein, c'est ça, aller en région, parler du quotidien de la France. Tire, en fait, c'est à ça que je faisais allusion avec mon histoire de sabots, tout ça. Mais c'était pas un JT, c'était pas un journal. C'était juste une petite collection sympathique d'ailleurs, hein, de bonnes nouvelles à droite et à gauche. Alors, ça faisait du bien aux gens, hein. Je pense que ça les rassurait, ça les apaisait un peu. Mais c'était pas un JT, en fait, c'était autre chose. Il donnait un petit peu. Il donnait quelques nouvelles à droite à gauche. La part de l'actualité internationale dans le Jean-Pierre Pernaut, c'était zéro, en fait, c'était que dalle, en fait. Donc c'était vachement bien fait, hein. C'était hyper marketé, c'était hyper hyper malin, hyper intelligent. Et je pense que ça faisait vraiment du bien aux gens, mais pardon, c'était pas de l'information, c'était autre chose en fait. C'était autre chose. On continue le sommaire? Let's go. Ah, bon, puisque on en est aux nouvelles positives, certains observateurs de la vie politique française pensent qu'on ne va pas y échapper. En 2027, dans 5 ans, la présidentielle, une victoire d'un candidat ou d'une candidate de l'extrême droite. On ne va pas y échapper, pensent, disent certains. Dans Libération ce matin, le chroniqueur politique Thomas Legrand écrit Marine Le Pen présidente en 2027. C'est malheureusement possible. Vous allez me dire, bah oui, il enfonce un peu une porte ouverte. Elle a été 2 fois au deuxième tour. Elle le sera peut-être dans 5 ans. Le RN monte, élection après élection, 89 députés à l'Assemblée nationale, c'est du jamais vu, comment dire, une digue entre le RN et les autres partis, notamment entre l'extrême droite et la droite, qui est en train de s'effondrer. Oh, merci pour le joli RN, Naotech. Et donc, c'est un peu enfoncer une porte ouverte de dire que oui, c'est possible. Mais il y a des éléments intéressants dans cette analyse, donc on les lira. Naotech, comment ça va? Je pense que c'est l'ami Jérôme. J'ai pas regardé ce qui se passait ce matin sur Twitch. Mais merci Jérôme. Mais tu nous as pas déjà raid? Bonjour les amis de Naotech. Allez voir cette chaîne sur Twitch et sur YouTube également. Naotech, je pense que c'est Jérôme qui était en live ce matin. C'était Jérôme ce matin? Ou c'était Marion? C'est Marion? Ah, hello Marion. Ah, c'est adorable. On a eu un raid de Jérôme hier et ce matin c'était Marion. Vous avez parlé de quoi avec Marion ce matin sur Naotech? Ça m'intéresse en fait. Vous avez parlé de quoi les amis avec Marion ce matin? J'aime bien, j'ai 600 personnes qui me disent c'était Marion. Oui, j'ai vu, merci beaucoup. Vous avez parlé de quoi? J'ai un petit décalage entre le temps d'écrire les messages et le temps. Les prix d'Apple encore? Mais déjà hier. Bah oui, j'ai. Encore? Apple qui augmente ses prix? C'est possible ça que Apple puisse augmenter ses prix? C'était pas déjà au maximum? C'était pas déjà très 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 cher? Les services d'Apple qui augmentent et le lithium en France. Alors ça, on va en parler aussi. Ça, c'est intéressant. On s'intéresse parfois aux mêmes choses d'ailleurs avec les gens de la nanotech. Prix Apple et gâteau au chocolat. Ça m'intéresse beaucoup plus déjà. Et le lithium, les mines de lithium en France. Enfin, la mine surtout, Trofel, je crois. On parle beaucoup d'une mine. Oh. Un message de Frama85 sous mes yeux à l'instant. Salut Sam, sache que pour ma copine qui est russophone, tu es that dude with a nice voice. Elle aime bien faire une sieste dans le canapé le soir pendant que je regarde un périplay. Elle trouve le timbre de ta voix extrêmement relaxant. Oh, c'est adorable. Ça me fait super plaisir. Voilà. Bah, vous voyez, c'est comme ça que moi j'enlève un peu le côté anxiogène des infos avec ma douce voix qui endort. Voilà. Donc, ne me demandez pas en plus de vous rapporter des bonnes nouvelles. Voilà, Marine Le Pen. Ah, on a perdu El Gâteau. Voilà. Allez, reviens, El Gâteau. Sois un peu coopératif. Je me demande s'il n'y a pas un petit réglage à faire sur le. Je me demande si je. Pas aller sur les. Bougez pas. Ça, c'est un truc que les amis de Naotech pourraient me régler. Ça. El Gâteau est devenu quand même très, très, très. Comment dire? Capricieux hein, au Maroc. Hein. Bon, je vais relancer le truc. Hop. Alors, je pense que ça va, je pense que ça va revenir imminemment, sous peu. Voilà. En fait, dès que je laisse un peu trop tranquille ce truc, il s'endort. Voilà. Peut-être que c'est ma voix qui endort d'ailleurs mon logiciel de capture d'écran. Vous pensez pas que c'est ça d'ailleurs? Ah, voilà. Je pense que c'est revenu. Voilà. Parfois, on me dit, mais quel journal je pourrais acheter? Samuel, conseille-moi un journal. Impossible. Impossible, tous les journaux sont intéressants. Moi, ce que je vous conseille, c'est de varier. Mais parfois, bah, selon les livraisons du matin, il y a un journal qui sort un peu du lot, que je trouve un peu plus intéressant que d'habitude, plus riche en articles de qualité. Ce matin, c'est Libération. Si vous n'avez jamais lu Libé, n'hésitez pas à acheter Libé ce matin parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Bon, il y a le dossier sur Sarkozy, là, qui n'est pas inintéressant. Il y a le papier sur Marine Le Pen. Et il y a aussi ce papier, on parlait d'actualité internationale. Sur le nouveau Premier ministre, c'est pas encore annoncé, mais c'est dans les tuyaux, ça va arriver, britannique, parce que vous savez qu'il y a une sacrée crise politique en Grande-Bretagne, qui se double d'une crise économique par ailleurs, et donc il s'appelle Rishi Sunak, voilà, c'est lui, le nouveau Premier ministre britannique, ça va être confirmé aujourd'hui, Rishi Sunak au fur et à mesure, le conservateur, il vient du parti conservateur, hein, du parti Tory bien sûr. Je dis bien sûr, puisque c'est aux membres du Parti conservateur de désigner le Premier ministre. On ne retourne pas aux urnes en Grande-Bretagne après la démission d'un Premier ministre. Après donc la démission de Liz Truss, qui elle-même avait suivi la démission de Boris Johnson. Donc Rishi Sunak, le conservateur, prend les rênes du royaume, qui accueille son troisième Premier ministre en 3 mois. Troisième Premier ministre en 3 mois. Si ça ne s'appelle pas une crise politique. Après une carrière éclair. Il est jeune, hein, et un poste de ministre des Finances, fils de médecin indien, millionnaire, parce qu'il est millionnaire, et donc lui est très riche, mais son épouse l'est encore plus, a la lourde tâche de redresser le pays. Quel est. Qui est ce monsieur? Voilà. D'où vient-il? Que va-t-il faire? Réponse dans Libération. J'ai pas. Ah oui, j'ai pas la ref de la blague au sur et à mesure. Ah, c'est pas au fur et à mesure, c'est au sur et à mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, je ne comprends pas les blagues dans les titres. Quelle est la blague dans le titre de Libé, là? Rishi Sunak au sur et à mesure? J'ai pas la ref. Vous avez compris la blague ou pas? Til Paris, qui m'écrit au sur et à mesure. Est-ce que c'est quoi la blague? C'est quoi la blague? Vous l'avez, vous, la blague, là? Vous n'avez pas compris? Au sur et à mesure. Il y a une blague, il y a un jeu de mots, mais je ne l'ai pas. Pas compris, pas la ref, vous non plus? Sunak est sûr. Au fur. Blague indienne. Sur mesure, car il a des costumes chers. Ouais, non. Il a un peu raté ce titre, non? Flop le jeu de mots? Oui, voilà, c'est ça. C'est bizarre parce que Libération, c'est très rare les flops de jeu de mots. Il avance peut-être que quand il est sûr, au sur et à mesure. Ouais, je comprends pas ce titre. Ou alors un jeu de mots avec Sunak? Ouais, non, c'est raté. Car il est sûr de lui? Ouais, non, pas tellement. Non. Sur mesure, ouais, bah c'est que vous êtes comme moi, vous vous interrogez. Bon. En tout cas, c'est lui. Merci à Libération. Et on continue. Quand je vous disais que le Libé du jour était riche et intéressant. Ah, alors d'abord, bravo à l'ami Jean Massier. Tiens, on va aller voir le compte de Jean sur Twitter parce qu'il s'en est félicité assez modestement d'ailleurs. Assez humblement, et ça lui ressemble bien. Jean, il a tout cassé sur Twitch hier. Je vous montre. Attendez. Venez, je vous montre, je trouve ça super drôle ce qu'il a fait hier. Ça, c'est le compte Twitter de Jean, hier, qui faisait un stream. Donc Jean, c'est le passionné d'actu politique, qui décrypte la politique pour vous sur Twitch depuis des années. Et donc hier, il fait un tweet en fin d'après-midi. Si vous venez maintenant, il y a moyen de mettre l'Assemblée nationale, il était en train de commenter les motions de censure déposées contre le gouvernement, devant Ponce et Gotaga. Voilà. Et effectivement... Sur cette capture d'écran, on voit qu'il est à 11 200 spectateurs en live devant, c'est énorme, hein, et que Gotaga par exemple est juste devant avec 12 000 et Ponce encore un petit peu devant. Et après, il met un autre tweet, désormais top 1 France, après le forfait de mes deux compétiteurs, c'est trop mignon. Ponce et Gotaga, beau match les gars, vive l'e-sport. Voilà. Et donc là, alors où est-ce qu'il est mon ami? Il est à combien? Attendez, hop. Jean, bah il est à 9-7, voilà, 9-7, et il est top 1 France, voilà. Et alors du coup, parce que tout ça c'est pour rire bien sûr, un peu plus tard, il tweet ceci. On rigole, mais 10 000 personnes qui suivent les travaux de l'Assemblée nationale en direct sur Internet un lundi après-midi, c'est énorme. Merci à tous, vive la République, tout ça, tout ça. Voilà. Il y a un mec juste en dessous qui a commenté, c'est marrant, il me ressemble. Il dit quel goat ce Jean Massier. Voilà. Mais voilà, mais bravo à Jean, quoi. Mais tout est résumé dans ce tweet de Jean. On rigole, mais 10 000 personnes qui suivent les travaux de l'Assemblée nationale en direct sur Internet un lundi après-midi, c'est énorme, mais c'est ça qui est fascinant sur Twitch. Voilà. Jean, on partage sa passion, hein, pour les jeux vidéo, pour l'art, pour la gastronomie, pour l'actualité, pour la politique. Voilà. Et on est stream top 1 France, quoi. C'est génial, je trouve. Vous en pensez quoi? Moi, je trouve ça incroyable. Fauve-touille. Oui, c'est un truc de dingue. J'avoue que même je l'écoutais en faisant mes courses. C'était sportif. C'était super intéressant avec Jean, me dit Dame Guenièvre. J'y fus, vous y fûtes. J'y fus, vous êtes plein. Le live de Jean était trop bien hier. Ah ouais, super boulot, voilà. Et Jean qui était notre invité d'ailleurs. Jean qui était notre invité vendredi soir à la maison dans l'hebdo Étienne avec Avamind qui venait exprès de Bordeaux, Little Big Whale, Trivia qui venait pour commenter les tweets de la semaine. On s'est régalé. Et là aussi il y avait du monde et ça m'a fait bien plaisir. Alors merci à Libération qui va revenir justement sur ces deux motions de censure déposées hier contre le gouvernement. C'est la suite logique du 49-3. Hein. C'est quand un gouvernement utilise le 49-3, l'article de la Constitution qui lui permet de faire passer un texte, une loi, un projet de loi, une réforme sans vote du Parlement, ce qui est une espèce d'anomalie démocratique, mais pour donner plus de pouvoir à l'exécutif, c'est le souhait du constituant de la Ve République, le général de Gaulle et ceux qui l'entouraient. Eh bien, le pendant de ce pouvoir un peu hors norme, c'est que du coup, l'opposition peut déposer une motion de censure pour tenter de renverser le gouvernement. Le problème, c'est qu'il faut que la motion de censure soit votée par la majorité des députés. Donc il y a eu deux motions de censure hier, une déposée par la NUP, l'Alliance de gauche, et une autre par le Rassemblement national. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien c'est assez passionnant. Et Libération nous l'explique très bien ce matin, on lira ça ensemble. Avec les amis de Naotech, tout à l'heure on a eu un raid adorable il y a quelques minutes, eh bien, sur la chaîne Naotech, ce matin sur Twitch, vous avez notamment évoqué l'histoire du lithium en France, le lithium notamment nécessaire aux batteries, ces batteries notamment nécessaires pour cette révolution de la mobilité avec demain de plus en plus de voitures électriques. Et donc, il y a l'ouverture bientôt en France de la deuxième plus grande mine européenne de lithium. La deuxième plus grande mine européenne de lithium, ce sera donc en France d'ici 2027, a priori, ce sera dans l'Allier. Est-ce que c'est un bon filon? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Vous êtes très nombreux à me demander plus de bonnes nouvelles. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est-à-dire dans Libération. Donc vous avez vu ce matin, il y a quand même pas mal de choses dans Libé. Voilà. Demain peut-être qu'il y aura moins de choses. En tout cas, s'il y a un journal intéressant à lire aujourd'hui, à acheter si vous n'avez pas l'habitude, je trouve que Libé, c'est plutôt pas mal. Je continue mon sommaire avant de développer tout ça avec vous tout à l'heure. Il y a beaucoup justement d'articles ce matin sur les nouvelles mobilités, sur cette question de la voiture électrique. Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est une bonne révolution? Est-ce que socialement ça pose pas plein de questions? Est-ce que écologiquement, est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment très très bien la voiture électrique? Plein de questions en suspens. Et ben j'essaie d'éclairer ce débat avec tous les articles que je trouve. Il se trouve qu'il y en a beaucoup ce matin. Il y a l'article de Libération sur le lithium. Il y a cette une du Parisien sur les voitures électriques. La France accélère. Voiture électrique, la France accélère. Ah, j'adore ce. Non, sérieux, c'est pas terrible. L'industrie automobile française souhaite bâtir une filière intégrée, des matières premières jusqu'au recyclage. Hein. Dans l'Allier, une mine de lithium pourrait bientôt équiper 700 000 véhicules en batterie chaque année. Donc, Libération en parle, Le Parisien en parle, et aussi, au-delà de ça, des ambitions des constructeurs automobiles français en matière de voitures électriques. Ambitions, certes, mais ils sont un peu à la bourre sur les Américains et les Chinois, et ça inquiète un petit peu. Le Parisien, vous le verrez, Satanos Rodin, merci pour ce prime à l'instant, c'est adorable. Un petit mot de foot, ce sera rapide, parce qu'il y a un match important pour le PSG en Ligue des Champions ce soir, contre le Maccabi Haïfa, je crois, c'est ça? Maccabi Haïfa, exactement. Je crois que c'est un club israélien, si je ne dis pas de bêtises, c'est le PSG qui reçoit. Et en cas de victoire, eh bien, c'est qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Forcément, il y a un enjeu important. L'horoscope, c'est pour tout à l'heure. Pour ceux qui seront très 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 rapides, qu'est-ce que je vous disais? Beaucoup de papiers et même beaucoup de une ce matin sur la question des nouvelles mobilités et le Figaro qui va un petit peu râler. Voilà. La voiture bouc émissaire de la transition écologique, les Français attachés à leur autonomie se sentent entravés. Donc ça, c'est voilà, ça râle. Ça râle ce matin du côté du Figaro, ça boude, hein, ça tape un peu du poing sur la table. Les Français attachés à leur autonomie se sentent entravés et harcelés par une politique de plus en plus restrictive dans les villes et les campagnes. La colère monte. Le Figaro qui ce matin choisit un petit peu son camp, pas tellement celui, pour simplifier, de l'écologie et de l'environnement, mais plutôt le camp de ceux aujourd'hui qui râlent et qui s'inquiètent, et parfois avec des vraies raisons, en mode hey, vous êtes bien gentil de vouloir me faire acheter. T'as tapé? Oh ma puce, je suis désolé. Ça fait 5 minutes que tu tapes? Oh, attendez. Je suis désolé. Il y a mon amoureuse qui était là et qui tapait. Mais tu tapais fort? Vous aviez vu Hélène qui tapait ou pas? Tu tapais sur la. Où ça tu tapais? Oh ma pauvre. Ça va? Donc bon, vous avez vu donc cette très belle jeune femme qui passait, c'est donc mon amoureuse, mais un peu incognito, avec tes lunettes de soleil. T'as mis tes lunettes de soleil exprès. Comment va Malo? Il m'a dit qu'il avait très mal au ventre ce matin. Ouais? Quand il s'est. Bah en fait tu dormais avec Solal. Il me dit papa, j'ai vraiment mal au ventre, plus que d'habitude. Hein? Mais bon, ça va mieux maintenant? Bon, ça va. Moi, je pense que c'est le régime alimentaire, tout ça. Ouais. Toute la nuit, il a eu très chaud. Ouais. Mais c'est peut-être passager. Et il est bien quand même ou ça va? Non, il est un peu fatigué. Ok. Ok. Attends, je coupe la caméra un instant. Tête d'eau, c'est bon? Ok. À tout à l'heure, mon amoureuse. Ouais. La pauvre, ça faisait 5 minutes qu'elle attendait avec le café. Ça va? Oui, bon, voilà. Goujat. Mais je suis pas goujat. Pourquoi je suis un goujat? Je suis un goujat parce que j'ai rien entendu avec mon casque. Bah, vous êtes super méchant quand même. C'était fou ça. C'est pas un goujat. Pas incroyable ça. Je suis un goujat ou je suis pas un goujat? Merci Energix pour le 14e mois à l'instant. À quoi il sert ce casque? Bah d'abord parce que mon. Alors très bonne question de Soc dans le chat. À quoi il sert ce casque? Alors tu remarqueras déjà que ce casque a un micro qui est attaché, tu vois. Donc si j'enlève mon. Alors, bon, pour aller au bout de la question qui vient de m'être posée, donc je vais enlever mon casque, puisque la question c'est à quoi sert ce casque. Je vais enlever mon casque. Je suis pas sûr que vous ayez entendu, mais en fait ce que je disais c'est que le micro est attaché au casque. Donc en fait ce casque sert déjà à ça. Voilà. La question est que c'est à quoi ce casque? Ceci est un micro. Et le deuxième truc c'est que je suis un maniaque du son et je pense que pour bien se faire comprendre, il faut déjà bien se faire entendre. Et donc mes années en radio m'ont rendu un peu maniaque sur la question du son. Et donc j'ai besoin de savoir en permanence quel est le son que vous avez. Voilà, donc j'ai besoin d'un bon casque. Même à la maison, j'ai toujours des petites oreillettes. Voilà. Parce que pour moi c'est essentiel. Voilà. Voilà. On en dit des bêtises quand même. Donc vous voyez, le Figaro se range plutôt dans le camp de ceux qui râlent en ce moment sur cette transition. Mais il y a les éléments qui sont vraiment intéressants. Bon, le fait que dans les zones périurbaines, à la campagne, et notamment du côté des foyers les plus modestes, il y a une espèce d'inquiétude, sinon de colère qui monte sur le côté bah, « Attendez, moi je veux bien changer ma bagnole, je veux bien être interdit de zone à faible émission de ZFE, mais avec quoi je vais l'acheter ma voiture moi ?» Pas avec vos aides, là, c'est pas assez en fait. Donc il y a un truc, voilà, une inquiétude qui monte. Et rappelez-vous déjà la taxe carbone, qui était déjà un truc a priori pour accélérer, favoriser la transition écologique. La taxe carbone, eh bien, elle a provoqué le mouvement des gilets jaunes. Donc du côté du gouvernement actuellement et du côté des oppositions, on est en train de surveiller ça avec beaucoup d'intérêt. Le Figaro consacre un dossier à cette question ce matin. Et puis, quelqu'un me disait dans le chat tout à l'heure. Mais la voiture électrique, c'est pas du tout écologique. Ah ben justement, on a un petit encadré là-dessus, puisque je pense que vous entendez beaucoup de choses à ce propos. Est-ce que la voiture électrique, elle est écologique ou pas? Eh bien, ce petit encadré n'a qu'à l'air de rien. Eh bien, c'est le truc le plus clair que j'ai lu sur la question depuis des mois. Merci le Figaro, on lira ça. Merci la Croix. Merci la Croix. Ça, c'est super. Tout à l'heure, quelqu'un me disait « Ouais, pourquoi tu rapportes pas plus de bonnes nouvelles ?» Je comprends hein, ce truc. Hein. Moi aussi, à une époque, je le pensais. Je disais... C'est vrai, les médias, pourquoi vous ne rapportez pas plus de bonnes nouvelles? Il n'y a pas que des choses qui se passent mal dans le monde. Et longtemps, moi-même, j'ai participé à ça. Jusqu'au jour où j'ai vu sur Canal+, une initiative, à l'époque où Canal était Canal, pas le Canal d'aujourd'hui, un canal libre, une émission qui s'appelait Le Journal des Bonnes Nouvelles, qui était présentée par Victor Robert, notamment. Le Journal des Bonnes Nouvelles, et ben, c'était exactement ça. C'était, à Canal+, il s'était rendu compte qu'il y a plein de gens qui disaient... notamment sur Internet, « Ah, mais pourquoi vous ne nous parlez pas des bonnes nouvelles? C'est hyper important. Arrêtez de nous tuer le moral avec vos mauvaises nouvelles, dans les JT, tout ça. Nous, on veut des bonnes nouvelles. » Donc, Canal s'est dit, « Ok, vous voulez les bonnes nouvelles? On va faire un journal des bonnes nouvelles. » Il n'y avait personne. Personne ne regardait. Ça a fait un flop total. C'était un accident industriel. Ça n'intéressait personne. Voilà. Et moi j'ai commencé à réfléchir à tout ça à cette époque. Je me dis, bah, alors, les gens veulent des bonnes nouvelles, mais quand on leur en propose, ils ne regardent pas. Et puis il y avait le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut qui était truffé de choses plutôt positives, de bonnes nouvelles. Mais on regardait ça en se disant, mais est-ce que c'est vraiment un JT? Est-ce que c'est pas juste une petite collection de reportages sympas sur ce qui se passe dans les régions françaises, nos belles régions françaises, disait Jean-Pierre. Donc j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et moi qui à un moment me disais, oui, on ne me donne pas assez des bonnes nouvelles dans les JT. J'ai fini par me dire, mais en fait, ce n'est pas le rôle du journaliste. Le journaliste, c'est celui qui rapporte ce qui ne va pas. Pour donner les clés à ceux qui sont en capacité de changer les choses qui ne vont pas, pour les changer. Qui sont ceux qui sont en capacité de changer les choses? Les décideurs, les citoyens, par leur vote, etc. Donc je crois que la mission en fait, du journaliste, c'est rapporter non pas le train qui arrive à l'heure, ça c'est souhaitable, mais le train qui déraille, en fait, pour éviter qu'il déraille. Voilà. Alors après, ça n'empêche pas de parler de temps en temps des belles initiatives et des choses positives dans ce monde, bien sûr. Mais je ne crois pas que ce soit la mission première du journaliste. Aujourd'hui, c'est mon point de vue. Peut-être que dans quelques années, j'aurai encore changé d'avis. Mais voilà où on en est. Et par exemple, bah, La Croix illustre ça. La Croix, ce matin, c'est un dossier sur l'Afghanistan, sur les femmes en Afghanistan. Voilà. Et là, certains vont me dire, oh là là, les femmes en Afghanistan. Mais sérieux, t'as pas plus positif? Ben non. Mais ils ont raison. Arrêtez de vous moquer du mot les décideurs, c'est vous. C'est vous les décideurs. C'est vous les décideurs. C'est vous. C'est vous. Le citoyen peut changer les choses dans une démocratie. Après, il faut qu'il se mobilise un petit peu, quoi. Il faut qu'il se bouge le cul un petit peu. Et donc, voilà, ça n'a rien de positif. Mais c'est un super travail. Et le début de l'édito de La Croix, il est passionnant. La Croix qui écrit, l'actualité a ses règles terribles qui veulent que certaines situations de notre planète tombent trop vite dans une forme d'oubli collectif. L'Afghanistan, sous le régime terrifiant des talibans et de ses lieux, voilà, qu'en fait on a oublié. Qui vous parle encore aujourd'hui de l'Afghanistan? Qui vous parle encore de la situation des femmes en Afghanistan? Quasiment plus personne. Eh bien, c'est la une de La Croix ce matin. Merci La Croix. Voilà, quel avenir puis-je offrir à mes filles? Voilà la question que se posent les parents d'Afghanistan. Hein, les filles, les femmes qui sont de plus en plus écartées de la vie sociale, culturelle, professionnelle, interdite d'école, voilà, pas pour les toutes petites, pour les adolescentes, voilà, et les jeunes femmes. On va lire ce dossier dans La Croix. Merci à La Croix pour ce dossier. Voilà, bon, c'est le meilleur de ce que je vous ai choisi ce matin. Voilà. C'est pas mal, c'est intéressant. Allez, je vous lis et puis on lit tout ça. Oh, j'hésite. Est-ce que je finis mon petit café ou est-ce que je bois mon grand café? Je sais pas. Alors, j'avais pas la ref, mais on me dit que les décideurs, c'est une ref de Bigard. Ok, désolé, je connais pas bien l'œuvre de Bigard. Ok. Renifleur de paix, un jour je chanterai pour toi. J'ai vu que tu avais dépensé tes points de chaîne, je chanterai pour toi. Bientôt je vais me remettre à la chanson. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à lire les journaux? Ok, vous êtes prêts? Oui? C'est oui? Et bon, on va y aller alors. Eh ben, let's go. Ok. Bon, on va commencer par Libération, qui est un journal où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses intéressantes ce matin. Voilà, hop, je vous mets la une, parce que ça marche toujours. Oh, ça marche toujours super. Let's go alors. C'est parti. On y va. Alors, d'abord, Libération, sa une. J'ai mis du temps à comprendre la une parce que j'ai pas tout de suite vu qu'il fallait lire comme ça. Ne vous faites pas mal à la maison, parce que c'est des risques de torticolis. L'emmerdeur. J'ai l'impression que ça fait un peu. C'est un petit clin d'œil à certaines comédies, certains films français de comédie. L'emmerdeur. Sarkozy et LR. Donc, l'emmerdeur, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est l'ancien président Nicolas Sarkozy. Longue interview dans le JDD qui continue à faire parler d'elle aujourd'hui encore. C'était donc dimanche, d'ailleurs je vous l'ai lu dimanche, cette interview de l'ancien président dans le journal du dimanche. Coup de griffe à son parti, appel du pied à Emmanuel Macron. L'ex-président embarrasse chaque jour un peu plus son camp en fait, les Républicains qui veulent tourner la page. Voilà, entre Sarkozy et la droite, le temps des tempêtes, rien ne va plus entre la droite. Pas seulement les responsables, d'ailleurs les élus, ceux qui aspirent aux plus hautes fonctions de la République, mais aussi en fait les militants, les électeurs de droite, c'est en tout cas l'avis de Libération. La rupture semble consommée entre l'ancien président, qui ne cache pas sa proximité avec Emmanuel Macron. Pourquoi est-il si proche d'Emmanuel Macron d'ailleurs? Il y a des éléments de réponse extrêmement intéressants dans Libé. Et le parti qu'il a créé, au point que celui qui a longtemps été indispensable devient épouvantail. Elle est belle cette phrase. Au point que celui qui a été longtemps indispensable devient épouvantail. Alors, Libération revient. Ça, j'arrive à tellement bien zoomer que j'arrive à lire ma tablette qui est ici sur l'écran là. Pff, masterclass. Ah, Débruit vient d'écrire pourquoi est-il si proche le président Macron du président Macron et Débruit écrit il ne veut pas aller en prison. Eh ben tu sais quoi? D'après Libération, c'est un des éléments d'explication. Il y a Antoine Duperville qui me donne la ref. En fait, L'Emmerdeur, c'est un film avec Patrick Devers et Jacques Brel. Ah, voilà, ok. Lisons. Dans une longue interview au journal du dimanche ce week-end, je vous en parlais à l'instant, on l'a lu ensemble d'ailleurs, l'ancien... Oh, nom de Dieu! Quelle saloperie. Mais c'est pas possible, ça, je change mon... Ah, vous avez vu? Je me demande si l'ancien président n'a pas essayé de pirater cette chaîne. L'ancien chef de l'État s'est rappelé au souvenir de son camp. Appuyer Macron, c'était, maintient-il, la meilleure décision possible. On va rappeler que l'ancien président a soutenu le président Macron au premier tour et au deuxième tour. Il a dit que c'était la meilleure décision possible. Voilà, le JDD lui a dit « Mais il y avait quand même une candidate de droite qui s'appelait Valérie Pécresse, vous ne l'avez pas soutenue une seule seconde, pourquoi ?» Et il a dit bah non, quel intérêt de soutenir une candidate qui n'avait pas une chance crédible d'arriver au deuxième tour ?» Ça tirait à balles réelles dans cet entretien. Il a conseillé dans cet article aussi bien son successeur, donc le président Macron, prié de se droitiser. Il a dit ça va la politique du président Macron, mais il faudrait que ce soit un peu plus à droite quand même. Et puis il a aussi invité son camp, j'ai presque envie de dire son ancien camp, la droite, à envisager carrément une alliance avec le macronisme. Les réactions en disent long sur les sentiments de sa famille politique. Voici quelques réactions listées par Libé. Pour la première fois, Nicolas Sarkozy admet qu'il soutient Emmanuel Macron. C'est indigné le président des sénateurs LR, qui s'appelle Bruno Retailleau. Aurélien Pradier, qui est aussi, je crois, candidat à la présidence du parti, il y a une élection qui arrive là, déclare ne plus bien comprendre comment fonctionne l'ancien chef de l'État. Un drame de politique, c'est vouloir être quand on n'est plus. Ouh, là aussi, ça tire à balles réelles. Aurélien Pradier, deux points, on voit les guillemets. Un drame de la politique, c'est vouloir être quand on n'est plus. Ouh, là, là, là. Qu'est-ce que ça dit là? Alors que le LR se donnera un nouveau président en décembre, aucun des quatre principaux candidats, Retailleau, Pradier, le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, et Serge Grouard, que je ne connais pas bien, maire d'Orléans, n'invoque les mannes sarkoziennes. Aucun n'évoque en fait l'héritage de Sarkozy. C'est vraiment intéressant, il y a un truc qui est en train de se passer, qu'on peut peut-être appeler un divorce entre les élus républicains et Nicolas Sarkozy. Retour en arrière. Le 12 octobre dernier, et là c'est Libération qui dit, ce divorce il n'est pas seulement entre les élus et Sarkozy, il est aussi entre les militants et Nicolas Sarkozy. C'était le 12 octobre, regardez en bas à gauche, Nicolas Sarkozy poste sur sa page Facebook une invitation pour une séance de dédicace de son nouveau livre, hein, une séance qui doit se tenir à Neuilly, et dessous eh bien, les commentaires de militants, de sympathisants de la droite. Une espèce de thérapie de groupe où ils sont très nombreux à dire leur déception. Voilà. Je l'ai adoré, Nicolas Sarkozy, depuis le début, mais aujourd'hui, je ne veux plus le voir, je ne peux plus le voir, c'est un lâcheur. Désolé, mais votre livre, vous pouvez le garder. Je n'ai que faire de vos faits et gestes. Plus un sou pour vous, enrage un autre, une autre sympathisante, plus n'aucun intérêt pour moi. C'est peu de dire donc que la base tremble de colère. Donc divorce avec les élus, divorce manifestement, en tout cas c'est le constat de Libé, avec la base, avec les électeurs de droite. Et puis alors la relation avec Emmanuel Macron. Hein, et après je vais vous lire bien sûr, je vais vous demander votre avis là-dessus. Ils sont nombreux à s'interroger sur les relations qu'entretiennent Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Quel intérêt les lie? Le président a eu besoin des électeurs de la droite pour se faire réélire, et désormais de ses députés pour compenser sa majorité relative à l'Assemblée. On va parler de motion de censure tout à l'heure ensemble. Alors, Macron cajole son prédécesseur, mais bon, ça c'est assez compréhensible, à qui il prête encore de l'influence sur son camp. Il le reçoit, il le consulte pour tout et n'importe quoi. Il le reçoit assez souvent. Alors, dans son camp, certains s'interrogent. Brice Hortefeux, Sarkozy a pensé à un moment qu'il resterait 25 députés LR à l'issue des législatives. Il s'est dit ils vont être liquidés, autant finalement prendre acte de la quasi-disparition de ce parti LR, prendre acte que Macron a gagné et essayer de passer un bon accord avec Macron pour sauver les meubles. Bon, sauf qu'en fait, bon, ils ont eu un peu plus de députés au final. Et puis un autre sarkozyste qui s'interroge. C'est très bizarre cette histoire. Il dit c'est très bizarre cette histoire. Sarkozy, je trouve que ce passage est vachement intéressant, se comporte avec Macron comme Trump avec Poutine. Pourquoi ce mec tellement burné, je cite, hein, transgressif, agressif même, se retrouve dans cette situation de quasi-servilité? Bon, c'est un sarkozyste qui se pose la question. Et la Libération écrit, je ne sais pas si Libération a raison, mais je trouve ça assez intéressant. En réalité, une explication à cette proximité recherchée par Nicolas Sarkozy circule si intensément au sein de la droite qu'il est impossible de ne pas l'exposer. Personne n'assume de la formuler à voix haute, même si quelqu'un en a parlé dans le chat tout à l'heure, car elle concerne la partie la plus gênante du sarkozysme, les ennuis judiciaires en série de l'ex-chef de l'État. En mars 2020, il a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis pour corruption et trafic d'influence, dans le dossier dit des écoutes, dont je vous ai déjà parlé. Le procès en appel, c'est pas terminé, doit se tenir le 28 novembre prochain. Et puis il y a plein d'autres affaires, il y a la Libye, il y a Big Malion, explique un pilier de LR, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Ce pilier de LR dit, eh ben, ça lui fait peur. Ça fait peur à Nicolas Sarkozy. Il se dit que dans le doute, il vaut mieux être sympa avec le pouvoir. Un macroniste, observateur privilégié de ce manège, déclare à Libération. C'est sûr que quand il voit son pote Patrick Balkany, hein, qu'il pensait intouchable, quasiment mourir en prison, il se dit que ça peut lui arriver à lui aussi. Nicolas Sarkozy, dit ce macroniste, a une vision tellement république bananière, pas très sympa, de la justice qu'il pense que Macron va lui sauver la mise. Voilà. Selon Libération, l'une des raisons essentielles du fait que Nicolas Sarkozy finalement est très, très sympathique avec Emmanuel Macron dans ses déclarations publiques, c'est qu'en fait il a peur d'aller en prison. Et il pense que d'avoir le pouvoir avec lui, ça peut lui permettre d'échapper à ça. Bon, c'est pas inintéressant. Je vous lis un petit peu là-dessus, et puis on enchaîne. Hop, je remonte mon micro, sinon mon micro trempe dans le café. Est-ce que vous trouvez ça pertinent comme analyse? Est-ce que vous trouvez ça pertinent? C'est crédible, me dit Pollux. Mashcool, moi c'est un truc que je me suis posé comme question. Peut-être qu'il ne supporte pas qu'un autre candidat de sa famille politique lui succède. Hein? Bah, Tonton Buzz dit, et pose la question intéressante, par quels moyens concrètement Macron peut-il intervenir pour éviter la prison à Sarkozy? La justice normalement est indépendante, mais d'après Libération, dans la vision de Nicolas Sarkozy, elle n'est pas tant que ça. Hein, le parquet a des liens évidents avec le pouvoir, et il estime que la décision de poursuivre ou pas, elle peut être influencée par des considérations politiques. Ce serait la vision de Nicolas Sarkozy. Et certains évoquent le pouvoir de grâce présidentielle du président. Après, je vois très très mal le président Macron prendre une mesure de grâce présidentielle pour Nicolas Sarkozy. Le parquet est flottant, me dit Divlas. Excellent. 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 Ou alors, pourquoi pas, c'est Siban75 qui le dit, peut-être que son soutien à Macron est sincère et qu'ils sont très proches poétiquement. Mais pourquoi pas? Ah, Lloyd67, c'est drôle, vous êtes super informé, hein. Évoque un truc qui est dans l'article mais que j'ai pas lu, qui dit il faut rappeler que Sarkozy s'était fait balayer à son retour lors d'une primaire pour 2017, exactement. Et dans l'article, eh bien c'est une autre piste de réflexion qui est évoquée, à savoir que Nicolas Sarkozy en veut à son propre camp de ne pas l'avoir accueilli à bras ouverts à son retour et de s'être fait balayer, comme tu le disais, lors de cette primaire. Et en fait, Nicolas Sarkozy, en fait, depuis, en voudrait tellement à son propre camp que il fait un peu tout pour l'écouler. C'est intéressant parce que c'est dans l'article de Libération. Bien joué. Ribon TV, quel intérêt pour Macron de se rapprocher de Sarkozy? Qu'a-t-il à y gagner? Les LR sont finito. Ben, l'article de Libé dit que Macron, pour être élu, il a eu besoin des voix de la droite. Donc Macron peut penser que Nicolas Sarkozy a encore une influence sur une partie de cet électorat de droite, ce qui me semble pas tout à fait fou comme hypothèse, et que du coup, ben, il a eu besoin peut-être de montrer à ses électeurs qu'il était assez proche de Nicolas Sarkozy. Voilà. Et puis là, il a aussi besoin des votes des députés LR à l'Assemblée pour faire passer ses réformes. Et là aussi, il se dit que peut-être qu'être proche avec Nicolas Sarkozy, mais ça semble être de moins en moins pertinent, et bien ça peut aussi lui faire gagner quelques batailles à l'Assemblée. Voilà. Voilà. Bon, on va pas y passer notre vie, surtout qu'on a déjà lu l'article dimanche dans le JDD. Bon. J'ai hésité à vous lire cet article parce que bon, ça n'a rien de très très surprenant que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République dans 5 ans. Bon bah c'est on est du domaine de la politique fiction, c'est dans 5 ans, il peut se passer plein de choses là-dessus. Mais c'est vrai que si on prend la, comment dire, si on s'intéresse à la dynamique politique. Merci Tata Zozo. C'est drôle parce que au moment où on parle de Marine Le Pen, il y a Tata Zozo qui sub. C'est très bizarre. Merci pour le 13e mois et merci Nimrout pour le 11e mois. C'est adorable. Dans la dynamique politique qui accompagne l'extrême droite, le Rassemblement National et Marine Le Pen depuis quelques années, oui, enfin, c'est une progression constante. C'est une progression constante. C'est des résultats aux élections à chaque fois meilleurs. Une présence au deuxième tour systématiquement. Un score qui progresse à chaque élection. 89 députés. Un score jamais vu pour le RN à l'Assemblée, c'est une dynamique. Une dynamique, si elle se poursuit, bah en fait c'est mathématique. Oui, Marine Le Pen a une vraie chance de gagner la prochaine présidentielle. Bon, c'est pas super original de le dire. Donc c'est pas pour ça que je vous ai mis l'article de côté, c'est plutôt pour quelques éléments de réflexion qu'il y a à l'intérieur. Oui, après l'extrême droite en Italie, pourquoi pas en France, dit Solariox. Malheureusement, oui. Malheureusement, c'est dans le commentaire. Lisons cet article. Pas si les jeunes se réveillent, me dit Eleoki. Bah, il faudrait que les jeunes votent déjà, parce que vous savez que les gens qui votent le moins en France, ce sont les jeunes. Peut-être c'est pour ça que tu parles de réveil d'ailleurs. Merci Nimrout, encore pour le 11e mois. Marine Le Pen présidente en 2027, c'est malheureusement possible. C'est la crainte de Libération de Thomas Legrand, le chroniqueur politique. Lisons. Il y a de moins en moins de raisons pour que Marine Le Pen ne gagne pas en 2027. La configuration du paysage politique est incroyablement favorable au RN. Marine Le Pen représente la seule force avec la France insoumise à propos de laquelle les Français, qui sont en pleine crise de défiance vis-à-vis du pouvoir et de la politique, eh bien peuvent dire on ne l'a pas essayé. En fait, l'argument central de cette réflexion de Thomas Legrand, c'est quels sont les partis, les personnalités politiques dont les Français peuvent se dire ah, mais on n'a pas essayé cela encore, il faudrait essayer. Ben, dans une certaine mesure, il y a la NUP. Avec Jean-Luc Mélenchon, on va dire. Il ne vous a pas échappé que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été élu président de la République, qu'il n'y a jamais eu de président écologiste, par exemple. Bon, du côté de la composante socialiste de la NUP, forcément, là, c'est du déjà vu. Donc, on va dire, il y a une partie de la NUP et il y a Marine Le Pen. Bah oui, l'extrême droite n'a jamais été au pouvoir en France. Jamais un candidat du FN ou du RN n'a été élu. Et en fait, c'est vraiment l'argument central de Thomas Legrand, c'est est-ce que les Français vont pas se laisser tenter par, dans leur quête d'un espèce de candidat ou candidate providentielle qui réglerait pas mal de trucs, est-ce qu'ils vont pas se laisser tenter par finalement la nouveauté et la virginité par rapport à l'exercice du pouvoir en disant bah, eux, on n'a jamais essayé, bah, allons-y quoi. Bon. Allons-y. Depuis Jacques Chirac, les alternances n'ont pas été le fait de la victoire idéologique d'un candidat, c'est assez intéressant, je ne sais pas si c'est pertinent, mais c'est intéressant, mais plutôt de la victoire d'une promesse d'un retour de l'efficacité politique. Nicolas Sarkozy n'a pas été élu parce qu'il était de droite, estime Libé, mais parce qu'il a pu faire croire que lui avait l'énergie pour en finir avec l'impuissance publique. François Hollande n'a pas gagné la présidentielle parce que la France était devenue social-démocrate, mais parce que le socialiste débonnaire, donc c'est Hollande, a convaincu les électeurs que pour avoir réellement prise sur le cours des choses, il fallait un président normal qui en finisse avec l'agitation hyperactive et vaine de l'essoreuse sarkozyste. Enfin, Libé continue sa démonstration, si Emmanuel Macron a gagné en 2017, c'est pas parce que la France a été convaincue par le positionnement politique, d'ailleurs indéfini du jeune candidat, qu'est-ce que le macronisme aujourd'hui, c'est très compliqué de répondre à cette question. Mais bien parce que celui-ci proposait une méthode pour en finir avec l'idée selon laquelle les manettes des gouvernements successifs ne répondaient plus le dépassement gauche-droite. La thèse de cet article, c'est lors des dernières présidentielles, les Français n'ont pas voté pour un camp, pour un corpus idéologique, mais plutôt pour une promesse d'efficacité. Ouais, quelqu'un qui allait vraiment prendre le destin en main du pays et des Français en mode, voilà, moi je vais y arriver, quoi. Bon, a priori, ils ont été déçus, semble dire l'article, mais. C'est pour ça que Thomas Legrand dit, eh ben, si on reste dans cette logique-là, eh bien Marine Le Pen a toutes les chances de gagner. Je vous lis dans un instant. Les Français ont essayé la droite, la gauche, le centre, le grand centre, l'énergie sarkozyste, la normalité hollandaise, le dépassement macronien, rien n'y fait. La défiance envers les gouvernants est toujours de mise. Alors à qui le tour? Ah, voilà. Au fil des années, le RN a arrivé, est arrivé, a arrivé, est arrivé, est arrivé, a installé l'idée que c'est son tour. Voilà. Dans la logique selon laquelle le corps électoral ne choisit plus en fonction d'une ligne idéologique, mais sur la promesse d'un retour de la souveraineté populaire, c'est-à-dire sur l'assurance que les prochains gouvernements sauront se donner les moyens de retrouver une influence sur le cours des choses, Marine Le Pen, son nationalisme et sa virginité politique en matière de responsabilité politique, a des atouts inestimables. Qu'est-ce que vous en pensez? Xino estime qu'il y aura toujours un barrage au deuxième tour. J'ai du mal à voir passer le RN aux prochaines élections. Tu parles d'un front républicain qui est quand même en train de s'effriter année après année. Je vous lis, hein. J'adore. Il y a Romu qui écrit: après tout, faut tester avant de juger. Et t'as King Julian Z qui répond: t'as déjà mangé du caca? J'imagine que non. T'as pas besoin de tester pour dire que c'est pas bon. J'adore cet échange. J'adore cet échange. Vous êtes des malades, j'adore. C'est marrant parce que vous êtes plusieurs à reprendre cette idée. Nuke, le sandwich au caca, jamais essayé, allons-y. Voilà pourquoi j'aime Twitch. Ça, ce sont des images que je ne pourrais pas utiliser à la télé. Ah, vous êtes géniaux, j'adore. Le sandwich au caca. Quelle heure il est? Chez vous, il est 9h02, je crois. Non. Quelle heure il est chez vous? Ouais, 9h02. Il est ici, il est 10h. Oh, j'adore. J'adore. Quand ça pue, pas besoin de goûter pour dire que c'est pas bon. Ah, vous êtes plein à réagir à ce qu'a dit Romu, en fait. C'est drôle. C'est drôle. En fait, c'est vraiment Romu qui disait après tout, faut tester avant de juger. En fait, il y a plein de réactions, en fait. Quelle heure il est chez vous? 10, ouais, ah, 10h02 chez vous, hein, c'est ça. Et 9h02 ici. Okay. Tiens, il y a Yekja qui a écrit deux présidentielles que je fais barrage. C'est le fameux vote utile. Eh bien, je vous confirme que c'est la dernière fois. La prochaine fois, je reste à la maison. Keijin n'est pas d'accord. Le barrage au RN fonctionnera toujours. La gauche préférera toujours son idéologie plutôt que le pays. Elle ne peut pas gagner. Il y aura toujours barrage. Même Bozo le clown gagnerait face à elle en slex. Pas sûr. Je suis pas sûr de ça, moi. Pas sûr. Il y a quand même une stratégie réussie de ce qu'on appelle la dédiabolisation du FN puis du RN menée par Marine Le Pen qui porte ses fruits. 89 députés aujourd'hui, 89 députés, hein. Et un score qui grimpe à chaque présidentielle. Je n'en suis pas si sûr. Pulsar, Quasar ou Quasar? Je suis nul, quoi, Quasar. Je suis nul, Pulsar, Quasar, Nebula, j'espère que je prononce bien. Merci pour le septième mois. Et Lolo Lastico, c'est beaucoup plus facile à dire pour quelqu'un comme moi. Merci pour le sixième mois. Pulsar, Quasar, on dit un quoi? Quasar, Quasar? Comment on dit? Quasar? Oh, je suis nul. Aidez-moi, je saurai pour la prochaine fois. Merci l'Odyssée pour le sixième mois d'abonnement. Quasar, Quasar, Quasar. Vous m'aidez pour me retrouver un peu plus savant à la fin de ce stream? Le truc dans les... Quasar? On dit quasar? Quasar, ok, vous êtes plusieurs à dire quasar. Ok. Donc c'est Pulsar, Quasar, Nebula? Quasar se prononce quasar. Merci. Ah, vous êtes super. Ok, je vais essayer de m'en rappeler pour la prochaine fois. Le problème, c'est que j'ai pas trop de mémoire. Libération extrêmement intéressante ce matin. Nous parle du nouveau Premier ministre britannique. Bon, alors là, faut être bien. Faut bien suivre l'actualité parce que ça change tous les mois. Hein. On a eu Boris Johnson, on a eu Liz Truss qui est resté quoi, 40, 44, 45 jours. Et puis maintenant c'est Rishi Sunak, voilà, qui arrive là. C'est pas encore officiel, ça, normalement ça devrait être officiel aujourd'hui. Libération a pris un petit peu d'avance. Je suis sûr que les journaux en parleront demain de façon abondante. Royaume-Uni, Rishi Sunak, donc c'est lui ici. Au sur et à mesure. On s'est interrogé pendant 10 minutes tout à l'heure pour savoir ce que voulait dire ce titre. Au sur et à mesure, on n'a pas compris. Peut-être qu'à un moment, ça va nous venir. Le conservateur, puisqu'on parle du parti Tory, prend les rênes du royaume qui accueille son troisième premier ministre en 3 mois. C'est beaucoup quand même. Après une carrière éclair et un poste de ministre des Finances, ce fils de médecin indien millionnaire a la lourde tâche de redresser le pays. Penchons-nous sur. Qui est ce monsieur? Le 5 septembre, Liz Truss devenait donc première ministre d'un pays en crise, paralysé par des grèves, une croissance nulle, une inflation galopante. Chef d'un parti conservateur déstabilisé par le Brexit, elle aura tenté de révolutionner, c'est ce qu'elle a essayé de faire, la vie politique et économique avec un programme ultra-libéral. On a dit que Liz Truss était un petit peu la nouvelle Margaret Thatcher. Sans succès, ça a même été un énorme échec, énorme fail, en moins de 2 mois. Eh bien, c'est son ancien rival Rishi Sunak qui va reprendre les rênes du Royaume-Uni, encore plus abîmé, le pays ayant au passage perdu la confiance des marchés et une bonne partie de la crédibilité à l'international. Alors, il y a eu un rebondissement de taille ce week-end, certains m'en ont parlé dans le chat. Boris Johnson qui alimentait les rumeurs sur un éventuel retour sur sa candidature à la succession de Liz Truss. Finalement, il a décidé de ne pas se représenter. Il a compris qu'il n'avait pas vraiment le soutien des députés britanniques. Et puis, il y a toujours une enquête qui lui pend au nez sur le fait de savoir s'il a ou non menti au Parlement. Libération écrit, la crainte d'une humiliation aura cette fois eu raison de Boris Johnson, mais un retour, attention, c'est pas terminé, d'ailleurs en politique c'est jamais terminé, un retour n'est pas à exclure pour les prochaines élections générales attendues dans 2 ans. Lundi, l'autre candidate en lice, Penny Mordaunt, s'est aussi retirée au dernier moment, annonçant que le pays avait besoin de certitude. C'est donc en candidat unique, c'est pour ça qu'il n'y a aucun suspense, que Rishi Sunak s'est exprimé en début d'après-midi. Ce mardi, donc aujourd'hui, le roi Charles III devrait officiellement le nommer en tant que Premier ministre. Voilà, donc c'est lui le nouveau boss du 10 Downing Street. Et on va se pencher sur son parcours. Je vous lis un petit peu là-dessus. Jusqu'où va pouvoir tomber la Grande-Bretagne? C'est compliqué en ce moment, dit Pulsar. Quasar, Nebula. J'espère que je prononce bien cette fois. Oui, on va en parler. Quelqu'un dans le chat évoque la richesse personnelle du monsieur et de son épouse, on va en parler. Parce que ça pose quelques questions du coup. Quel est ce nouveau chef du gouvernement britannique, nul autre que celui qui a précipité la chute de Boris Johnson en présentant sa démission en juillet ? Banquier de 42 ans, au costume ajusté, à la démarche élancée sur le papier, Rishi Sunak avait de quoi signer une success story à la Emmanuel Macron. Fils d'immigrés de la région du Punjab en Inde, il est un conservateur somme toute assez classique. Avec un père médecin, une mère pharmacienne, il entre dans la très sélecte Winchester College, pension privée, avant de rejoindre Oxford, s'il vous plaît, pour étudier, comme tous les politiciens de sa génération, ce qu'on appelle les PPE, c'est un cursus de politique, de philosophie et d'économie. 3 ans auprès de Goldman Sachs, donc la banque d'affaires, un saut en Californie, il lance sa propre affaire et entre dans le monde politique en 2015. Pro-Brexit, donc ça c'est intéressant, donc il est pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE, il est rapidement nommé au gouvernement. Il obtient le poste de chancelier de l'échiquier, hein, c'est le ministre des Finances, dès 2020, sous Boris Johnson. Il remporte alors l'adhésion des Britanniques en leur offrant des aides financières généreuses pendant la crise sanitaire, la pandémie de Covid. Après, avec un tel CV, il aurait pu devenir l'homme qui rassemble et torise les conservateurs, mais le dernier mot est revenu aux membres du parti, il y a 45 jours donc, qui ont décidé autrement cet été en préférant une Liz Truss radicale aux airs de Margaret Thatcher à ce ministre plus mesuré et issu de l'immigration. Malgré sa carrière éclair, Sunak s'est attiré de nombreuses critiques, notamment en raison de sa richesse. Il est marié à la fille d'un milliardaire indien. Il est à la tête d'une fortune estimée à 730 millions de livres, soit 835 millions d'euros, ce qui est quand même une belle somme. Voilà. Il est devenu du coup le second dirigeant européen d'origine indienne de l'histoire, après l'Irlandais Leo Varadkar en 2017, et c'est le premier chef du gouvernement britannique de confession hindoue. Voilà pour son profil, ses origines, son mariage, sa fortune. Fortune qui alimente, écrit Libération, les soupçons d'une déconnexion, d'une élite internationale vis-à-vis des réelles préoccupations du pays et des Britanniques. Presque autant que toi, Samuel, me dit Savrock quant à la fortune. Oui, oui, encore quelques subs et j'y suis presque, effectivement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout ça en étant d'origine étrangère, moi je dis bravo monsieur, dit Panic Sellers. Plus que Mbappé, dit donc. Oui, c'est vrai. D'après les chiffres révélés par Le Parisien hier, oui, il est plus riche, effectivement. Mais peut-être qu'il est moins efficace devant la cage de but. On n'a peut-être pas pensé à ça. Merci The Voyageur pour les bits. The Voyageur qui essaie de me faire dépasser la fortune du nouveau ministre britannique. Petit à petit, on va y arriver. Au fur et à mesure. Clin d'œil. Oh, jolie la blague d'Anton d'Uberville. Liz Truss a une longévité exceptionnelle. Elle aura connu 2 monarques. Jolie. 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 Ok. Camembert, Samuel lit plutôt mes commentaires, mon pseudo est plus facile à prononcer. C'est vrai, voilà. Prenez-en exemple d'ailleurs. Ouais. Ouais, on en a parlé hier. Castor écrit, elle va surtout toucher 140 000 euros pour le reste de sa vie. Chaque année, hein. Alors qu'elle n'a fait que 44 jours en tant que Premier ministre. En fait, on s'est penché là-dessus, effectivement, depuis une loi qui date d'il y a quelques années. Tout Premier ministre qui s'en va en Grande-Bretagne garde ce revenu annuel de 140 000 euros, je crois, hein, c'est ce qu'on avait vu. Après, il a la possibilité de le prendre tout ou partie. Voilà, on a vu ça hier Voilà. Alors on ne sait pas encore si Liz Truss va prendre cet argent ou pas. On a parlé assez longuement hier. Bon, à suivre, je suis sûr qu'il y aura plein de papiers demain sur le nouveau Premier ministre britannique. Voilà. Ça c'est très intéressant. GG d'abord à l'ami Jean Massier qui a fait un stream passionnant hier après-midi sur ces motions de censure déposées pour tenter, et pas vraiment de suspense, de renverser le gouvernement Borne en France. Libération écrit un papier qui est extrêmement clair là-dessus. Motion de censure, jeu de position chez les oppositions, avec le soutien inattendu des députés d'extrême droite, puisqu'il y a eu quand même un petit rebondissement hier. Le texte de la gauche unie a obtenu 239 voix, parce qu'on va en parler, ben, les voix d'extrême droite se sont portées sur la motion de censure déposée par la NUP. Du côté de la NUP, ils étaient un peu surpris, pour pas dire qu'ils ont fait la gueule. Avec le soutien inattendu des députés d'extrême droite, le texte de la gauche unie a obtenu 239 voix. On n'était pas au niveau requis pour renverser le gouvernement, mais on n'était pas trop loin quand même. Pas suffisant pour renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne. Celui du RN, donc la motion de censure, n'a réuni que 90 députés d'extrême droite. Personne d'autre n'a voté cette motion, à part l'extrême droite. Et comme prévu, LR n'a pas suivi dans un cas comme dans l'autre. Tonnerre d'applaudissements sur les bancs de l'extrême droite. Libération a regardé ce qui s'est passé à l'Assemblée avec attention. Silence stupéfait sur les bancs de la NUP et gêne palpable chez les Républicains. Lundi après-midi à l'Assemblée, Marine Le Pen vient d'annoncer à la tribune que les députés du RN vont voter la motion de censure présentée par la gauche, en plus de leur propre texte consécutif au 49-3, déclenché mercredi sur le projet de loi de finances pour 2023. Et ça, a priori, ça a été une vraie surprise. Résultat, peu avant 19h, le texte de la gauche unie récolte 239 voix. Il en aurait fallu 50 de plus pour faire tomber le gouvernement Borne. Donc on n'est pas très très loin non plus. 50 voix qui manquent, eh ben, c'est notamment les voix de LR. Si les députés LR avaient voté cette motion de censure, ça veut dire addition des votes des députés de la gauche, de l'extrême droite et de la droite, le gouvernement a été renversé. Bon, tant que LR décide de ne pas voter une telle motion de censure, le gouvernement Borne ne peut pas tomber. Marine Le Pen a obtenu hier ce qu'elle est venue chercher à la tribune de l'Assemblée, voler la vedette à la gauche unie qui, depuis plus d'une semaine, avait pris le leadership de l'opposition à Macron, et comme elle le glisse aux journalistes une fois rassise à sa place, démontrer que LR est aujourd'hui plus proche de la majorité que de l'opposition. Dans plusieurs articles ce matin que j'ai lus, on parle d'un baiser de la mort, d'un double baiser de la mort. Marine Le Pen et ses troupes embarrassant la NUP. Hein. Vous vous rendez compte, pour des élus et des députés et des militants de gauche, constater que leur motion de censure eh bien, a été renforcée par les voix de l'extrême droite, ça, voilà, ça pose un cas de conscience. Donc c'est un petit peu embarrassant pour eux. Et puis, baiser de la mort aussi à LR, qui ne vote pas cette motion de censure. Et donc le RN qui va pouvoir dire à ses militants, à ses électeurs, à ses sympathisants dans les prochaines semaines, vous voyez bien que la seule vraie opposition, c'est nous, puisque la droite ne vote pas la motion de censure. Donc c'est quand même super malin, ce move. Bah tiens, c'est en bas de la colonne, ces cadres, tout contents d'avoir réussi leur double façon. Leur coup façon baiser de la mort aux deux autres oppositions. Le double baiser de la mort. Sur leur banc, les députés de la NUP écarquillent les yeux, ils n'avaient rien vu venir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, la motion du RN n'a récolté que 90 voix, dont aucune de gauche. Hein, personne n'a voté la motion de censure du RN. Je lis la fin de l'article et puis je vous donne la parole. Ce qui devait être un acte d'affrontement des oppositions avec la Première ministre, en fait, s'est transformé en un nouvel épisode destiné à peser les poids relatifs de chacune opposition. Hein. Nouvel épisode destiné à définir qui, de la NUP ou du RN, fait figure de premier opposant à Emmanuel Macron en ce début de quinquennat. A priori, il n'y avait aucun suspense. Tout le monde savait que cette motion de censure n'avait aucune chance de passer. Donc, il s'agit plus pour les oppositions d'estimer leur poids politique. Le résultat de ces motions de censure était couru d'avance, puisque les élus, les Républicains, avaient fait savoir de longue date qu'ils ne s'associeraient ni à la gauche ni à l'extrême droite. À la tribune lundi, leur président de groupe, Olivier Marleix, a dû donc se plier à un difficile exercice d'équilibriste, celui d'apparaître comme un des chefs de l'opposition, alors que le gouvernement d'Elisabeth Borne ne doit sa survie qu'à ses troupes restées à la maison ou parties avant les votes. Comment se présenter auprès des électeurs de droite comme un parti d'opposition alors que la survie du gouvernement Borne se doit uniquement en raison de l'abstention à ce vote des députés LR. Voilà, on est un peu dans un jeu politique. On sent qu'on est déjà en ce moment, 5 ans avant, en train de préparer les prochaines échéances électorales. Je vous lis et on enchaîne. Qu'est-ce que vous en pensez? Meilleur coup politique joué par le RN, pomme. J'avoue que là, ils ont bien joué le coup. Il faut reconnaître que ça a été assez habile. C'est bizarre, d'un côté, la NUP a besoin des votes du RN, mais elle doit le dénoncer. C'est bizarre comme situation, Nicolas. On ne peut pas dire autre chose, c'est bizarre. La NUP aurait dû aussi approuver celle de LR, me dit GKP Light. Attention, LR n'a pas déposé de motion de censure. C'est le RN qui a déposé une motion de censure. LR n'a pas déposé de motion de censure. Je ne suis pas pour le RN, mais je reconnais que c'est bien joué de leur part, me dit Fichu Panda. En vrai, c'était la meilleure chose à faire de la part de Marine Le Pen, même si je ne la soutiens pas, dit Zarkarkar. Le Pen très fine sur ce coup. Well done, regrette-t-il Paris. Astucieux côté RN, vous êtes tous d'accord sur là-dessus, quoi. Ouais. Ça fait peur cette montée de l'extrême droite, écrit Nico Alla, 17. J'espère que la gauche va se remobiliser. Allez, je lis encore un ou deux commentaires, on enchaîne. Est-ce que le président est obligé d'accepter la démission si la motion de censure était passée? Oui, le président Macron a été obligé d'accepter la démission du gouvernement Borne. Tout à fait, c'est la Constitution, c'est arrivé une seule fois sous la 5ème République, c'était en... Moi, je vais vous dire une bêtise, c'était Pompidou, 1962, je crois. Une seule fois. Une motion de censure qui a été votée. Marine Le Pen est-elle encore élue quelque part, se moque Panique Sénat? Ben en fait, elle est élue députée, en fait. Hein. Elle est même présidente du groupe, je pense, RN à l'Assemblée. Elle a laissé volontairement la tête du parti à... bon, on va voir qui va gagner la prochaine élection pour désigner le président du parti RN, entre Louis Alliot et Jordan Bardella, même s'il n'y a pas trop de suspense, là aussi, ce sera Jordan Bardella. Elle a laissé volontairement la tête du parti parce qu'en vue de la prochaine présidentielle, elle veut apparaître moins comme... Marine Le Pen du RN, mais Marine Le Pen face aux Français, tout ça est une stratégie qui est assez claire. Et donc, elle préfère aujourd'hui apparaître comme la chef de file du groupe RN à l'Assemblée. Mais De Gaulle a nommé Pompidou juste derrière Ozoa Zabi, exactement. On enchaîne? Allez. Ah, le lithium. Vous allez me dire beaucoup de Libération ce matin. Bah ouais, je trouve que Libération est vraiment très bon sur l'actu ce matin. Voilà, ça dépend des matins, bien sûr, selon les livraisons des journaux. Voilà. Ce matin, j'ai lu l'Humanité, bon, je vous ai rien mis de côté. J'ai lu l'Opinion, je vous ai rien mis de côté. J'ai lu Les Échos, je vous ai rien mis de côté. Bon, ça, voilà, ça varie vraiment tous les jours. Et c'est très subjectif. Peut-être que vous allez lire l'Huma, Les Échos et l'Opinion ce matin et trouver ça formidable. Je trouve que Libération est vraiment pas mal ce matin, et notamment sur cette histoire de lithium. Une première mine de lithium en France qui arrive 2027, c'est bientôt. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mine de lithium? C'est une poudre blanche, début de l'article, qui enivre l'industrie des batteries électriques et qui devrait permettre aux voitures de se sevrer du pétrole émetteur de CO2. L'ouverture de la deuxième plus grande mine européenne de lithium. Et, salut petit chien! Ça va? est programmée d'ici à 2027 à Échassières, on est dans le Massif central. L'annonce lundi par le groupe français Imerys a été une surprise pour les associations environnementales qui ne s'y attendaient pas. L'objectif du gouvernement est clair, faire rouler les Français en tout électrique nationale, c'est-à-dire avec des voitures françaises, avec de l'énergie française et des batteries produites en circuit court. Emmanuel Macron en est un fervent défenseur. La dépendance quasi complète à la Chine pour le lithium aujourd'hui, nécessaire aux batteries pour les voitures électriques, contraint l'Union européenne, censée interdire la vente de véhicules thermiques à partir de 2035, c'est dire la poule aux œufs d'or que représente ce gisement de lithium en France. Gisement qui est connu depuis longtemps en fait, hein. Sur le site de Beauvoir, où la présence de lithium a été identifiée dans les années 60, le minerai abonde, a priori il y en aurait beaucoup. Nous estimons le gisement, dit l'entreprise, autour d'un million de tonnes d'oxyde de lithium. Ce serait, avec cette mine, l'espoir de produire 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an, à partir de 2028, pour au moins une durée de 25 ans, de quoi équiper l'équivalent de 700 000 véhicules électriques. Je me suis posé la question de savoir si c'était 700 000 électriques en tout sur les 25 ans ou 700 000 véhicules électriques par an, ce qui n'est pas la même chose. Et d'après Le Parisien, mais il faudra vérifier l'info, c'est 700 000 véhicules électriques par an. Donc si je fais fois 25... Alors attends... Ça permettrait, si l'analyse du Parisien est bonne, de produire 17 500 000 voitures électriques en France. C'est beaucoup, hein ? Vous aussi, c'est 700 000 par an. C'est énorme. Ok, donc c'est pas une petite mine. Ok, vous êtes plusieurs à me dire que c'est 700 000 par an. Ok. Elle est où en France, cette mine, Samuel ? Elle est où ? Elle est dans l'Allier. C'est le site de Beauvoir, dans l'Allier. Voilà. Dans l'Allier. Massif central. Ok. Alors, au niveau local, certains sont contents. Pour un département comme le nôtre, avoir une richesse souterraine pareille est un coup de bol. Ça va générer des centaines de millions d'euros, créer des centaines d'emplois. Qui dit ça ? C'est le président du conseil général du département de l'Allier. Selon l'élu, il n'est pas question de détruire un espace naturel, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes écologistes. C'est une mine quand même. C'est un site déjà exploité. C'est déjà une mine à ciel ouvert d'extraction de kaolin, donc ça ne va rien changer. Les écologistes ne sont pas du tout d'accord. La parole à Juliette Renaud, qui est responsable de campagne aux Amis de la Terre, et elle dit « La mine responsable, c'est un mythe. Tout projet extractif a des impacts importants. Occupation territoriale, dommages environnementaux, impacts sanitaires, pollution. Pourtant, écrit Libé, le projet se veut le plus éco-responsable possible. Extraction et concassage souterrain, donc tout se fera en souterrain. » Recyclage de l'eau, matériel électrique, système de pipeline et acheminement par le train vers un second site de valorisation du lithium, donc il n'y aurait pas une noria de camions, tout le transport se ferait par train. Pas un seul camion sur nos routes, certifie le président du département. Pour les écologistes, la production de batteries en lithium n'est de toute façon pas une bonne solution, ça c'est un autre argument. En début de mois, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, a relativisé la supériorité de la voiture électrique face à la voiture thermique. On en a parlé déjà ici, on va en reparler tout à l'heure avec le Figaro. Les petits véhicules, oui, les petites voitures électriques polluent 2 à 3 fois moins que leurs homologues thermiques, mais ce n'est pas le cas des lourds SUV électriques qui polluent énormément et qui sont ciblés par les militants. Pourquoi on dit ça ? Il y a un encadré dans le Figaro là-dessus, qui est vraiment extrêmement clair, on le lira tout à l'heure. Si la voiture électrique a le mérite de ne pas utiliser d'énergie fossile, dit un militant écologiste, il faut avant tout repenser la mobilité, développer les transports collectifs, privilégier les modes de déplacement doux comme le vélo, et d'ajouter une réelle transition écologique implique que nous n'allions pas vers le tout voiture individuelle, bon ça c'est un sujet qu'on va évoquer avec le Figaro tout à l'heure, mais vers plus de sobriété entre pro et anti, mine et puis bagnole, le bras de fer ne fait que commencer, c'est la conclusion de Libération. La note de l'ADEME est tellement mal faite, ça entretient la désinformation sur les voitures électriques, estime Jolioc. Je trouve que le Figaro résume bien ça, on verra ça tout à l'heure. Le mieux quand on peut, je dis bien quand on peut, dit Idreillard, c'est de ne pas prendre de voiture. L'électrique, ça n'est pas l'avenir, me dit Edith dans le chat. Je vois des commentaires en mode alors les écologistes, ils veulent la voiture électrique, mais ils veulent pas les mines qui vont avec. Alors, si on regarde bien le discours des militants écologistes aujourd'hui, ben non, ils veulent pas non plus vraiment de la voiture électrique. Ils disent que c'est pas vraiment la solution, en fait. Bon, on en reparlera tout à l'heure dans le Figaro, peut-être tout de suite d'ailleurs. Non, c'est le Parisien d'abord. En tout cas, vous voyez que la question des mobilités du futur, des mobilités le moins polluantes possible, les moins impactantes. Quant au CO2 et au réchauffement climatique, eh bien c'est vraiment au cœur des préoccupations, puisque c'est dans Libé, c'est à la une du Figaro et c'est aussi à la une du Parisien ce matin. Voiture électrique, la France accélère, magnifique jeu de mots, la France accélère, voiture, non, pas du tout, bien sûr. L'industrie automobile française souhaite bâtir une filière intégrée, des matières premières jusqu'au recyclage, c'est ce qu'on a vu dans l'article de Libé, et dans l'Allier, une mine de lithium pourrait bientôt équiper 700 000 véhicules en batterie chaque année. Ça, on vient de le voir. En fait, l'article est plutôt sur la filière française de la voiture électrique, puisque c'est le souhait du président Macron. Des voitures électriques 100% bleu, blanc, rouge, le défi est immense. Bâtir dans l'Hexagone une filière intégrée pour ces véhicules, des matières premières jusqu'au recyclage. Mais les constructeurs chinois et américains ont pris de l'avance. En fait, l'article, il est sur ça. Il est sur est-ce que la filière automobile française va savoir résister à cette nouvelle concurrence de voitures électriques chinoises ou américaines. Séduire ou disparaître, voilà l'enjeu pour une industrie, une filière, des centaines de milliers d'emplois en France. Les marques chinoises, parties avec 10 ans d'avance, ont lancé une vaste offensive au Salon mondial de l'auto à Paris, avec une technologie bien maîtrisée et des tarifs beaucoup plus intéressants que les modèles tricolores. Séduire. L'industrie automobile française vient cependant de s'en donner les moyens. La voiture électrique tricolore est enfin lancée. Les champions du pays se sont mis en ordre de bataille. Renault avec la future 4L à Maubeuge, électrique. La future R5 électrique à Douai. L'Alpine électrique à Dieppe. Stellantis, l'autre grand constructeur français, vient d'annoncer la production à brève échéance de 12 véhicules électriques en France contre 6 actuellement. Peugeot 308 électrique, 308 break électrique, 408 électrique, SUV 3008 électrique, 5008 électrique et le futur SUV électrique de Citroën. Tout ça sera construit à Rennes, à Mulhouse et à Sochaux. L'État, pas seulement les constructeurs français, semble aussi avoir pris la mesure du défi et de l'urgence. L'industrie automobile compte encore 800 000 emplois dans notre pays. Donc ça veut dire, quand on se pose la question de savoir si les constructeurs français vont réussir à relever ce défi et de ne pas se faire bouffer par la concurrence chinoise et américaine, c'est aussi l'occasion de rappeler que c'est 800 000 emplois dans le pays. Au Mondial de l'Auto, Emmanuel Macron a multiplié les annonces comme le bonus écologique, boosté de 6 000 à 7 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, pour les foyers les plus modestes. Un petit peu de café et on enchaîne. On enchaîne. Les Chinois, eux, sont désormais bien placés dans cette course aux véhicules électriques, forts d'une technologie de la batterie bien maîtrisée, de prix attractifs. Les voitures françaises, en termes de technologie, n'ont pas à rougir, mais elles sont trop chères, écrit le Parisien. Pour résister aux concurrents asiatiques, certains appellent à explorer d'autres options. Nous avons du retard par rapport aux Chinois en matière de batterie, mais nous avons l'opportunité sur l'hydrogène de reconstituer des avantages compétitifs. Qui dit ça? C'est l'ancien ministre Jean-Baptiste Djebbari, qui est aujourd'hui président du conseil d'administration d'Opium, qui est une nouvelle entreprise française, un nouveau constructeur français d'une voiture à hydrogène. La bataille ne fait que commencer. On a reçu d'ailleurs un responsable d'Opium sur France Info il n'y a pas longtemps pour nous présenter cette voiture à hydrogène. Voilà, on va passer au foot et au Figaro dans un instant, toujours sur cette question des voitures, parce que le Figaro est très énervé sur cette question. Le futur selon Renault, c'est 4L et R5 pour se moque hyper. Ouais, mais ces nouvelles versions, elles n'ont rien à voir en fait. Ils ont juste repris ces anciennes marques pour faire genre, pour surfer sur les belles images de ces voitures dans le passé, mais c'est des véhicules complètement neufs, bien sûr. Tiens, regarde, écrase. J'ai hâte de voir cette R5 électrique, justement. Ça me donnera de bons souvenirs. Malheureusement, je devrais me diriger vers le 5008. Quelle idée d'avoir des enfants. Moi, je pense que ta R5, elle serait un petit peu petite. Exactement, Anton Duberville, c'est tout le débat évoqué par le Figaro tout à l'heure. 6 000 à 7 000 euros pour un foyer qui n'a pas le moindre argent pour remplacer sa voiture, c'est juste de la blague. Ah, et puis VP Delca pose cette question, mais c'est si dur d'imaginer un monde sans les bagnoles? Ben, vous verrez que on va se pencher là-dessus avec le Figaro tout à l'heure. Allez, juste un mot de football pour vous dire que le PSG joue ce soir un match important, c'est la Ligue des Champions, et une petite victoire contre le Maccabi Haïfa, le club d'Israël, serait une bonne idée parce que ça qualifierait les Parisiens pour les huitièmes de finale. Paris validera son billet pour les huitièmes en cas de victoire. Ce soir, du beau jeu est attendu car si la campagne du PSG n'alarme pas, elle déçoit quelque peu. Rendez-vous à 21h ce soir pour voir ce match. Voilà. Horoscope. Bon, les nouvelles, vous n'allez rien comprendre de ce qui va se passer. Mais le plus rapide à me donner maintenant son signe astrologique dans le chat sans faute d'orthographe, eh bien, je lui lis son signe. C'est un petit jeu qu'on fait sur la page horoscope du Parisien. Voilà. Les nouveaux, vous êtes surpris, mais vous pourrez jouer la prochaine fois. On n'y croit pas, hein, c'est de l'horoscope, c'est de l'astrologie, mais ça nous fait marrer. Qui gagne aujourd'hui, c'est Capricorne. Aujourd'hui, c'est Capricorne, c'est plus la peine de jouer. Hélio Polybe a été dans mon chat, en tout cas, le plus rapide, la plus rapide. Sagittaire, Clémiche. En deuxième position, Lion en troisième avec Wolf Vision TV, mais donc Capricorne, bravo Capricorne qu'on n'a pas lu depuis un moment, ça tombe bien. Cœur, parce que c'est le plus important. Cœur, faites attention à votre entourage. Bon, c'est un conseil qui peut aller pour n'importe quel signe. Réussite, terminez les paroles en l'air et les projets fumeux. Vous vous attelez au travail avec des objectifs précis. Ok, ça va. Forme. Est-ce qu'on restera sur une bonne note comme pour la réussite et le cœur? Capricorne, vous serez en bonne forme. Ok, Capricorne, c'est une belle journée qui vous attend. Alors j'adore. Bah vous êtes des habitués pourtant Clamakine. Tu as mal lu Samuel, c'est Verseau. Darkhold, c'est Bélier en premier. Non. Sachez qu'on n'a pas tous le même chat. Voilà. Et en fait, dans mon chat, faites-moi confiance, c'était Capricorne en premier. Mais on n'a pas le même. Voilà, pour des raisons de je sais pas quoi, ou quelqu'un m'a expliqué une fois. Donc, voilà, dans mon. Parce que je ne peux pas voter votre chat, je ne suis pas sur votre PC. Mais sur le, donc, je suis obligé de lire le mien, et dans mon chat, c'était Capricorne en 1. WhatsApp est down depuis 1 heure. What? Vous êtes plusieurs à me dire que WhatsApp a. Ok, vérification. WhatsApp marche plus? Eh ben, dis donc. Vérifions. Ça marche pas. Alors, je suis en train d'ouvrir WhatsApp. Eh bien, je vous confirme. Panne mondiale de WhatsApp, écrit Armel Couvert. Ça ne marche pas. C'est cassé. C'est cassé. Oh, mais c'est vrai, quelqu'un me dit que dans mon chat, en fait, c'était Bélier. Vous avez raison, j'avais raté Franaël, qui était au-dessus de Capricorne, qui était au-dessus d'Hélio Polybe. Capricorne, vous avez eu votre horoscope grâce à une petite faute d'inattention. Il y avait 3-4 lignes avant Franaël qui avait tellement été rapide. Eh bien, je vais vous lire Bélier en plus, vous avez raison. Bien joué. Donc, WhatsApp confirmé, si c'est en panne chez vous, c'est normal, c'est en panne dans le monde entier. Eh bien, je vais vous lire Bélier. Excusez-moi, désolé, vous avez raison. Ok. Allons-y, Bélier. Alors, ok. Bon, ça tombe bien, c'est le signe de mon amoureuse. Bélier, cœur. En solo, une rencontre pourrait révolutionner votre existence. Heureusement que c'est écrit en solo, sinon je m'inquiéterais un petit peu. Ok, donc c'est plutôt cool pour les célibataires. Réussite, vous reverrez votre mode d'organisation de travail et vous gagnerez en efficacité. Cool en fait. Forme, vous aurez un tonus d'enfer. Bon, vous avez bien fait de me dire que je m'étais gouré et que c'était bélier, puisque les béliers, vous avez un très beau signe, je vais le dire à mon épouse. Et je pense que je vais lui dire pas plus tard que maintenant, parce que 2h02 et 48 secondes de stream, j'ai mérité une petite pause café. Vous ne croyez pas? Donc je vous abandonne. Je vous abandonne. Je vous laisse 3 minutes, ok? Je vais me chercher un petit café pour me relancer un petit peu. Et on lira ensuite ce dossier du Figaro qui vient un petit peu râler hein, sur cet objectif de la voiture électrique en disant mais c'est ni fait ni à faire, c'est pas, en tout cas c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Ça crée beaucoup de problèmes, de tensions sociales notamment. Dossier dans le Figaro. Et puis on lira aussi ce dossier, merci à la Croix de le proposer, sur l'Afghanistan qu'on a oublié, l'Afghanistan aux mains des talibans, et surtout la situation des femmes en train de se dégrader en Afghanistan. Merci à la Croix d'avoir passé du temps sur ce dossier pour nous rappeler ce qui se passe là-bas. Hop, je vous mets une petite pause, une petite musique qui est ici. 3 minutes de musique pour ceux qui sont abonnés. Quelques petites pubs pour ceux qui ne le sont pas, c'est une autre façon de soutenir, ne m'en voulez pas. Et je vous dis à tout de suite pour lire ces articles. À tout de suite. Pas mal ça. Yes. We'll be right back.
fights with the fire. I can't put out the light ahead. We'll just flicker out. The unknown, have you looked back and grab on to the past? But that lifeboat's gotta sink, so
je suis arrivé pile poil à la fin du morceau, en vrai. Waouh, la classe. Ça a l'air bien ça, on va se recaler ça pour la petite pause de raid tout à l'heure. Ah, mais je suis arrivé pile poil à la fin. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. Waouh, petit thé à la menthe. Voilà, ça, c'est un des bonheurs du Maroc, quel kiff. Allez, je vous lis un petit peu. Je vous lis un petit peu et on enchaîne. On va lire le Figaro et on va lire la Croix. Ah. Ok. Merci Lewis pour le 5e mois d'abonnement. Ah, j'avais pas vu. Merci Scornet pour le Prime, c'est adorable. Allez, on y va. Vous êtes prêts pour le Figaro? Ah, quel bonheur. Merci encore Lewis. En vacances au Maroc? Ouais, en vacances. En vacances studieuse, un petit stream quotidien. Mais en vacances, oui. Itch, est-ce qu'on a parlé de la motion de censure? Oui, tu l'as en replay, on vient d'en parler. Oh, merci. Un petit café qui arrive. Donc oui, le thé à la menthe, c'est formidable, mais ça n'empêche pas de reprendre un petit café quand même, hein, double plaisir. Voilà. Est-ce que tu stresses encore quand tu passes à l'antenne? Non, parce que ça fait 25 ans que je fais ça. C'est Jérémy qui pose la question. 25 ans que je fais de la télé, donc il n'y a plus de stress, il n'y a plus que du plaisir de faire ce beau métier. Sur Twitch, c'est que du plaisir aussi, sauf le vendredi, où je suis un peu stressé le vendredi soir. Parce que, je sais pas, c'est de recevoir 3 personnes. J'ai toujours un petit coup de stress au moment de lancer le stream. Ça passe pas, c'est la 9e déjà. Mais c'est rigolo, c'est bien de stresser un petit peu, de se remettre un petit peu en question. On se sent vivant, donc c'est plutôt sympa. Mais ouais, non, plus de stress, sauf le vendredi soir. Voilà. Juste avant de lancer le stream, après ça va très bien, quoi. Ah. C'est quand la 10e hebdo Étienne? C'est pas cette semaine puisque je n'allais pas inviter mes 3 invités au Maroc, mais ce sera la semaine d'après et ça va être une magnifique émission. Je suis en train de vous la préparer. Allez, lisons un petit peu le Figaro. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles en ce moment sur la voiture électrique, sur les zones à faible émission. Je suis content parce que j'ai commencé à vous en parler il y a un petit moment déjà. J'ai l'impression que tout le monde en parle désormais. De ces questions. Dans le cadre de mon mémoire, je souhaiterais revoir le live de vendredi, me dit Andrea, qui contient des infos qui peuvent m'être utiles. Est-ce que je dois être sub pour le revoir? Non. Ici, en fait, il n'y a pas besoin d'être abonné pour voir les replays. Donc, tu vas sur ma chaîne, tu vas dans les vidéos, en replay, tu as toutes les émissions. Voilà. En replay, c'est gratuit. Et tu les as aussi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Tu tapes VOD Samuel Etienne. Tu vas retrouver normalement aussi tous les replays pour regarder ça tranquillement. Donc, c'est gratuit. La voiture. Bouc émissaire de la transition énergétique. Le Figaro qui se fait un petit peu l'écho de toutes les inquiétudes d'une partie de la population autour de cette évolution, de cette révolution. Les Français, attachés à leur autonomie, écrit le Figaro, se sentent entravés et harcelés par une politique de plus en plus restrictive dans les villes et les campagnes. La colère monte. Alors, colère, je sais pas. Inquiétude, c'est sûr. Colère, peut-être demain. Zone à faible émission. Fin programmée de la vente des voitures à moteur thermique en 2035, piétonnisation viscéralement attachée à leurs véhicules, les Français sont touchés de plein fouet actuellement par la multiplication de mesures que le Figaro estime restrictives, surtout dans les zones périurbaines où la voiture est indispensable au quotidien. Pour Jean-Luc Moudenc, premier vice-président de France Urbaine, structure qui rassemble les métropoles françaises, cette politique anti-voiture laisse craindre un souffle insurrectionnel. Sens interdit. C'est l'édito ici de Jacques-Olivier Martin. Qu'est-ce que dit le Figaro à ce propos ? Touche pas à ma bagnole. Et touche pas à mon poste. Il y a touche pas à ma bagnole. Andrea. Oh, merci Andrea pour le cinquième mois d'abonnement. Andrea qui nous posait la question du replay. Touche pas à ma bagnole. La voiture peut vite devenir un sujet éruptif chez nos concitoyens. C'est pas faux. Rappelez-vous la taxe carbone. Rappelez-vous les gilets jaunes. Après tout, est-ce bien surprenant ? L'auto, c'est la liberté. Estime le Figaro, celle de circuler, pour travailler, pour voyager, pour s'évader. Les Français y tiennent à cette liberté comme à toutes nos libertés, écrit le Figaro. Nos dirigeants seraient bien inspirés de ne pas l'oublier lorsqu'ils ne cessent de planter des sens interdits, d'où le titre de l'édito, sur nos chemins de vie comme des ronds-points sur nos routes. Chasse aux voitures dans les centres-villes, restriction de circulation dans certaines agglomérations selon l'âge, la motorisation du véhicule et bientôt interdiction de vendre en Europe des voitures à essence et diesel neuves. Bien sûr, nos fonctionnaires ou élus de Bruxelles et de Navarre ne jurent agir que pour notre protection, notre santé, notre bien-être. Il en est ainsi de l'interdiction de commercialiser des moteurs thermiques en 2035 adopté pour réduire les émissions de CO2, qui étouffe notre planète. Nul ne conteste la nécessité de répondre à l'urgence climatique, mais fallait-il agir de la sorte ? Bon, c'est un débat qu'on a quasiment tous les jours. Ici, personne ne met en doute la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO2, d'améliorer la qualité de l'air qu'on respire dans nos villes. C'est une évidence, il faut le faire. Mais de plus en plus de voix s'élèvent, dont celle de Figaro aussi, pour dire qu'il faut faire autrement. Alors, c'est là où ça se complique. Comment faire ça autrement ? Le Figaro propose une solution, je ne sais pas si c'est convaincant, je vous lis. Plutôt que d'autoriser le seul moteur électrique, n'aurait-il pas été plus constructif de fixer des objectifs d'émission et de laisser les industriels inventer des solutions pour répondre aux normes environnementales, quelle que soit la motorisation ? En gros, faire confiance aux constructeurs de voitures pour trouver des solutions plutôt que d'imposer l'électrique. C'est ce que dit le Figaro. Je ne sais pas si c'est pertinent. Autrement dit, parier sur l'innovation plutôt que sur des bannissements qui empoisonnent la vie des conducteurs et ne sont même pas entièrement fondés écologiquement. Et là, on en vient au débat sur la voiture électrique. La dette carbone d'un gros SUV est remboursée après seulement 100 000 km selon l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique. On va lire un petit encadré à ce propos un petit peu plus loin qui est assez intéressant. Cette politique conduit à notre affaiblissement industriel et tôt ou tard à la colère. La France des bonnets rouges et des gilets jaunes n'est jamais très loin des rocades et des ronds-points. Qu'est-ce que vous pensez de ce regard du Figaro ? Alors, bien joué. Casiel qui connaît l'actu dit « Ah, il faut faire confiance aux constructeurs ?» Pourquoi pas ? En truquant les tests, comme les grands groupes européens. C'est Volkswagen, je crois, qui avait fait ça. Jolioc pas convaincu. Oui, le laisser faire, oui, bien sûr, ça marche très bien quand on régule pas le marché, c'est cela, oui. Vous êtes plusieurs à évoquer cet argument de Volkswagen. Hein. Ramon Pérez, quand on voit que Volkswagen a triché sur ses émissions moteurs, c'est pas mal quand même de mettre la pression sur les industriels. Il existe déjà des normes d'émissions, dit Casey, sur lesquelles les constructeurs d'ailleurs ont massivement triché. Et on repart dans l'utopie que l'innovation technologique va nous sauver, dit Charafina. El Famoso, la technologie va nous sauver sans changer notre confort, de Coldfire. Hmm. Faire confiance aux entreprises pour agir, on a déjà testé avec les résultats que l'on connaît. Zigouillamor, vous n'êtes pas convaincu, hein. On me dit qu'il n'y a pas que Volkswagen qui a triché d'ailleurs. Radiateur qui fuit. Ils sont à l'ouest, le Figaro. Est-ce qu'ils ont lu le troisième volet du rapport du GIEC ? La solution, c'est transport en commun, réhabiliter les trains pour les trajets courts et petites voitures électriques. On va en parler d'ailleurs avec le Figaro. Allons-y d'ailleurs. Deux choses à lire dans le Figaro encore sur ce sujet. La voiture électrique, pas forcément plus écologique, c'est l'encadré ici, qui est relativement clair, je trouve. Et l'inquiétude des élus quant à un souffle insurrectionnel en France sur ces questions. L'extension des ZFE, des zones à faible émission, dont je vous ai beaucoup parlé déjà, dans les métropoles désorganise villes et campagnes. Lisons. Avec ces ZFE, on redoute un nouvel épisode Gilets jaunes, prévient Jean-Luc Moudenc, premier vice-président de France Urbaine, structure qui rassemble les métropoles françaises. Lui craint que l'urgence écologique et la justice sociale, urgence écologique, justice sociale, ne fassent mauvais ménage. Et que les ZFE se transforment en zones à forte exclusion, mais cette fois sociale. Face au dérèglement climatique et à la pollution de l'air, la pression monte d'un cran autour de la voiture, accusée de rendre nos villes irrespirables. Au lieu de 10 collectivités concernées dans un premier temps, l'État somme désormais 43 métropoles de plus de 150 000 habitants de créer avant 2025, donc c'est dans pas longtemps, ces fameuses ZFE à l'intérieur desquelles les véhicules les plus polluants seront interdits de circuler. Sur le modèle de ce qui existe en Europe, où 324 ZFE existent déjà, la France compte ainsi réduire drastiquement oxyde d'azote et particules fines que crachent les véhicules diesel et essence. Bah, sur l'objectif, on est d'accord. Il faut, de façon urgente, réduire nos émissions de CO2, de polluants, et puis d'améliorer la qualité de l'air dans nos villes. Ça, on est d'accord. Après, c'est la manière d'y arriver qui fait débat. Libération, il y a quelques jours, le Figaro aujourd'hui constate que les Français ne réalisent pas vraiment ce qui va se passer. Ce qui les attend, il suffit de les interroger sur le sujet pour s'apercevoir qu'ils ignorent tout de cet acronyme ZFE et des règles à venir qui vont pourtant changer radicalement leur vie. Comment en effet se déplacer s'ils ne peuvent plus prendre leur auto ? Dans de nombreux territoires ruraux, c'est le seul moyen de locomotion puisque l'alternative vantée par le slogan de la SNCF « À nous de vous faire préférer le train » existe peu. Hein. Les élus locaux, eux, pressentent que les ZFE pourraient être à l'origine d'un nouveau souffle insurrectionnel à travers le pays si rien ne change. Le premier comité, ça c'est intéressant, c'est un truc qui se passe en ce moment, le premier comité interministériel mis en place aujourd'hui à l'initiative du gouvernement va d'ailleurs leur permettre de pointer les faiblesses du dispositif. En présence de Christophe Béchu et de Clément Beaune qui sont ministres de la Transition écologique et des Transports, les 43 présidents de métropoles qui sont concernés par les ZFE sont réunis autour de la table. Parmi les griefs, l'insuffisance des aides financières pour changer de véhicule, qui va être abordée. Le reste à charge est encore trop élevé, estiment de nombreux élus. C'est aussi ce que soulignent deux parlementaires à l'origine d'un récent rapport sur les ZFE. Conscient des imperfections de cet arsenal réglementaire, les deux ministres doivent aujourd'hui, à surveiller, annoncer de nouvelles mesures en s'inspirant des propositions faites par les deux députés qu'on vient d'évoquer. Le Figaro ne dit pas que l'objectif est mauvais, hein, de réduire les émissions de CO2 et d'améliorer la qualité des villes, mais finalement, même s'il le dit un peu différemment de Libération il y a quelques jours, dit la manière dont c'est fait socialement, eh bien, c'est extrêmement dangereux. Et puis il y a cette fameuse note de l'ADEME, évoquée ici page 6 dans le Figaro, sur la voiture électrique. Est-ce que la voiture électrique est vraiment moins polluante que la voiture thermique ? Eh bien, ça dépend. Voilà. Ça dépend comment elle a été construite. Et puis, ça dépend de sa taille aussi. Lisons cet article, que je trouve très clair. Le moteur électrique ne brûle pas d'essence. Bon, ça, c'est une évidence. Mais est-ce qu'il pollue moins l'environnement pour autant ? Oui, répond l'ADEME dans une note récente, à condition que la capacité de la batterie ne dépasse pas 60 kWh. Avec une batterie de taille supérieure, l'intérêt environnemental n'est pas garanti. Ce type de batterie, donc pas trop grosse, équipe des voitures comme la Peugeot E208 ou la Renault Zoé, donc on peut parler de petites voitures, de voitures urbaines, des véhicules qui disposent d'une autonomie de 400 km tout au plus, qui ne sont pas trop lourdes. Les SUV électriques haut de gamme, eux, sont alourdis, notamment par le poids de batterie de capacité plus importante. Or, l'impact carbone d'un véhicule électrique augmente quasi proportionnellement à son poids. Par ailleurs, l'empreinte environnementale d'une voiture comprend l'ensemble de la chaîne de valeur du produit, pas seulement la circulation, mais aussi la manière dont la voiture a été produite. Donc, production, utilisation et après aussi recyclage, hein, pour calculer justement l'équivalent en CO2 de ce que représente une voiture, il faut prendre en compte sa période d'utilisation, mais aussi sa production et aussi le recyclage. Concernant la phase d'utilisation, bon, ce qui est le plus visible, on va dire, souvent appelé du réservoir à la roue, la voiture électrique est indubitablement plus écologique que la voiture thermique. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Même si le constat varie en fonction du pays dans lequel la voiture est utilisée, par exemple si en Pologne, où une grosse partie de l'électricité vient de centrales à charbon, ou si la voiture est utilisée en France, où une grosse partie de l'énergie vient du nucléaire, évidemment, en termes d'émissions de CO2, ce n'est pas du tout la même chose. Dans la phase d'utilisation, la voiture électrique est donc généralement beaucoup moins polluante que la voiture thermique. En revanche, dans sa phase de production, de construction, la voiture électrique est beaucoup plus polluante. En cause, la fabrication de batteries. La plupart des batteries sont assemblées dans des usines chinoises, où plus de 80% de la consommation d'énergie est émettrice de gaz à effet de serre. De surcroît, l'extraction puis le traitement de minerais indispensables à la conception des batteries requiert beaucoup d'énergie et bouleverse les équilibres écologiques dans les territoires concernés. Se demander si la voiture électrique est plus écologique que la voiture thermique revient donc à savoir si l'excédent de carbone émis durant la phase de production est compensé par la phase d'utilisation. Je pense que c'est assez clair. L'ADEME parle de remboursement de la dette carbone contractée par la voiture électrique. La dette carbone est remboursée au bout d'environ 15 000 km pour un petit véhicule de type voiture citadine, alors qu'elle n'est remboursée qu'après 100 000 km pour un SUV haut de gamme. Je trouve que cet encadré sur la note de l'ADEME est assez clair. Seul avantage de la voiture électrique, me dit Bérénul, on crèvera moins des particules fines dans les métropoles. Magel, perso, j'ai une Zoé depuis plus de 2 ans avec mes deux enfants. Pour les trajets du quotidien, c'est un bonheur. J'habite dans une toute petite ville à la campagne. On a une voiture thermique pour les vacances. Et mes petits trajets, c'est la voiture électrique. Ok. Merci, Basti, pour le gentil message. Merci beaucoup, c'est adorable. Je vous lis. Les grosses voitures électriques sont une aberration, me dit Automatique. Peu importe la motorisation, vous êtes plusieurs à le dire, notamment le Lewitch, on en revient toujours au même sujet, le poids de la voiture. Tout est un sujet d'éco-conception à la base. C'est la même chose dans tous les domaines. Radiateur qui fuit. Encore une fois, un peu de sérieux. La solution, ce n'est pas remplacer toutes les voitures essence ou diesel par des voitures électriques. C'est réduire drastiquement le nombre de voitures. Et pour les endroits où aucune alternative viable n'est possible, alors oui, petite voiture électrique. C'est assez pertinent ce que tu dis. Exactement. J'ai lu que si on voulait remplacer toutes les voitures thermiques dans le monde entier par des véhicules électriques, on n'avait tout simplement pas la matière suffisante, on n'avait pas les matériaux nécessaires en fait, lithium, etc., quoi. C'était juste pas possible. Allez, je lis encore un ou deux messages et on enchaîne et on vous parle de l'Afghanistan aussi avec Lacroix pour terminer cette revue de presse. V. Benji, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un truc qui me titille aussi sur ces articles. VBNJ a écrit, la manière dont c'est présenté, ça donne l'impression qu'on jette la voiture après 15 000 km. Même si le premier acheteur s'en débarrasse, le marché de l'occasion existe. Des voitures continuent de rouler. J'ai l'impression que dans ces projections, ces analyses, on prend pas du tout en compte la vie en occasion de la voiture. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a Buddy Valjean qui nous laisse et qui va faire du vélo. Salut, sois prudent. Zigouille à mort, pour le marché de l'occasion, il y a souvent remplacement de la batterie et donc on repart sur le remboursement. Oh. Ok. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'on a l'occasion d'en reparler. Je voulais dire merci à Lacroix pour terminer ce matin pour ce sujet. De continuer à parler de l'Afghanistan alors que quasiment tout le monde a oublié ce qui se passait là-bas, la prise de contrôle du pays par les talibans et la situation des Afghanes, des femmes en Afghanistan. Merci à la Croix. D'ailleurs, l'édito évoque un petit peu cet oubli, vous allez voir. À Kaboul, survivre à l'ombre de la charia. Je vous recommande la lecture de ce dossier. Les talibans resserrent de jour en jour leur contrôle sur les femmes privées de tous leurs droits. Reportage dans les écoles qui continuent d'accueillir des filles. Édito que je trouve vraiment intéressant de la Croix, intitulé Un combat universel. L'actualité a ces règles terribles qui veulent que certaines situations de notre planète tombent trop vite dans une forme d'oubli collectif. L'Afghanistan, sous le régime terrifiant des talibans et de ses lieux, oubli renforcé par la politique de censure du régime vis-à-vis des journalistes. La Croix raconte dans les pages d'intérieur comment le journaliste, l'envoyé spécial de la Croix, s'est fait virer au bout de 3 jours, qu'il n'a pas eu l'autorisation en fait de faire son travail. Il faut pourtant parler sans se lasser de ce pays qui prive la moitié de la population, à savoir les femmes, d'enseignement, de vie publique, de liberté et finalement de dignité. L'actualité a ces règles terribles qui, à force de nous bombarder d'informations, nous aveuglent et font perdre le sens des vrais combats. Vrais combats comme celui des droits des femmes dans cette partie du monde, sous la botte d'un régime islamiste violent, dont certaines féministes en France estiment la Croix, égarées dans des postures caricaturales, divisant chaque jour un peu la société, ferait bien de se souvenir. L'actualité en Afghanistan a aujourd'hui le visage de la petite Sadia, cette jeune fille de 14 ans qu'on rencontre dans le reportage dans les pages intérieures, cette petite fille de 14 ans qui, au péril de sa vie, va suivre des cours dans une école qui continue à accueillir des filles, ce qui est interdit, qui voudrait devenir journaliste, mais qui, dans quelques jours, sera mariée à 14 ans contre sa volonté à un homme de 60 ans. Sadia et toutes les autres, ses sœurs en résistance, qui tentent courageusement de préserver une part de leur liberté. Il nous rappelle qu'il importe de dénoncer l'obligation du port du hijab ou autre niqab pour les filles, ici comme ailleurs, que les droits des femmes ne se divisent pas en fonction des pays, mais qu'il s'agit d'une valeur universelle dont nous avons tous la responsabilité. Voilà pour cet édito, et maintenant je vous propose de lire cet article. 14 mois, c'était il y a 14 mois, 14 mois après la reprise du pouvoir, les talibans resserrent de jour en jour leur étau sur les femmes, sur les minorités, sur les journalistes. Certains îlots de résistance tentent malgré tout de tenir tête à l'ordre moral du régime, mais les habitants sont rattrapés par une autre préoccupation du fait de la crise économique et de l'inflation galopante, trouver de quoi se nourrir. Reportage, donc de l'envoyé spécial de la Croix, reportage en l'espace de 3 jours, puisque il a été demandé ensuite par le pouvoir des talibans en Afghanistan à cet envoyé spécial de quitter le pays. C'est une adresse comme une autre dans ce quartier populaire de Kaboul. Des adolescentes au visage cerné par un foulard franchissent le seuil de la maison. Dans le voisinage, on murmure que derrière les hauts murs de la bâtisse anonyme, des cours clandestins sont dispensés aux collégiennes et aux lycéennes des environs. Sadia, 14 ans, se faufile vers une des salles de classe. À la maison, seule sa mère et son frère savent qu'elle poursuit des études au sein de cet îlot de résistance à l'ordre moral des talibans qui refusent l'enseignement secondaire aux jeunes filles de 12 à 17 ans. Jusqu'à 12 ans, les jeunes filles, les petites filles ont le droit d'aller à l'école et après c'est interdit. Sir Chorao, comment vas-tu? Merci beaucoup pour le petit message et pour le sub. Née d'un père boulanger, Sadia aimerait se projeter vers un diplôme de journaliste, elle dit: je veux devenir quelqu'un plutôt que de rester toute la journée à la maison. Une ombre passe dans son regard. Dans quelques jours, l'adolescente de 14 ans sera en effet mariée à un commissaire taliban, âgé d'une soixantaine d'années. Ses parents ont échangé la liberté de leur cadette contre celle de leur fils aîné, incarcéré pour avoir tenté de fuir leur pays. Le commissaire taliban du quartier l'a fait libérer à la demande de ses parents. Pour le prix de ses services, il a demandé et obtenu la main de la gamine. Sadia a aperçu chez son oncle le sexagénaire qu'on veut la forcer à épouser, un homme rondouillard, pas éduqué, âgé, conservateur. Sadia raconte son histoire comme on lancerait une bouteille à la mer en espérant un miracle à 9 jours du mariage. On a l'impression que le miracle n'arrivera pas d'ailleurs. La croix qui rapporte que les mariages forcés ont toujours existé en Afghanistan, mais que leur nombre est en train d'augmenter sous les talibans. Une partie des talibans actuellement ferme les yeux quant à ces actes de résistance, notamment ces cours clandestins aux jeunes filles. Pour combien de temps encore la pression se renforce au fil des mois? Les digues contre l'ordre des fondamentalistes cèdent les unes après les autres. Les femmes sommées de disparaître de l'espace public en sont les premières victimes. Au ministère des Affaires étrangères, par exemple, le personnel féminin est obligé de rester à la maison. On continue à les payer, mais on leur demande de plus venir au bureau. À l'université, les cursus de journalisme, de sciences politiques, d'ingénieurs sont désormais réservés aux hommes. Dans les médias, les présentatrices disparaissent peu à peu des antennes. Kaboul, la métropole de plus de 4 millions d'habitants, tourne au ralenti parce qu'il y a une crise économique énorme là-bas. Le chômage a explosé sous le double effet des sanctions internationales et du retrait des Occidentaux. Quelques dizaines de militantes, quel courage, quelques dizaines de militantes résistent ouvertement aux fondamentalistes. Ces jeunes femmes se regroupent presque chaque semaine dans une rue de la capitale, scandant des slogans sur le droit de travailler et d'étudier, avant d'être rapidement dispersées à coups de bâtons et de gaz lacrymogène. Voilà. Merci à la Croix de nous rappeler ce qui se passe en Afghanistan. Voilà. Notamment pour les femmes. Je vous lis un petit peu. Et puis on fera faire un raid ensemble. Et puis je retourne à mes vacances. Salut Jean-Jacques. Bienvenue, mais c'est la fin. C'est le Moyen-Âge, me dit Foxtil. Ouais, c'est fou, ouais. Ouais, c'est fou. Mis à part en parler, que faire pour aider? Demande Zigouyamor. Bah, j'ai pas la réponse en fait. Excellente question et j'ai pas la réponse. Mis à part en parler, que faire pour aider? Alors, ne pas en parler, c'est pas la solution, je pense. Merci. Salut Janvier TV. Merci pour le troisième mois. C'est adorable. Ne pas en parler, c'est pas la solution. Et bravo à la Croix d'en parler, mais j'ai pas la solution. J'ai pas la réponse. Il y a Elie Catermil qui dit aider financièrement les associations, par exemple. C'est vrai qu'il y a des ONG qui sont toujours présentes sur place. J'ai pas la réponse à cette question. Sensibiliser et en parler, écrit Sacha Nostra. Rappeler que le patriarcat existe et qu'il tue. Soutenir les associations féministes. Voilà, mais je tenais à vous lire l'article parce que je le trouvais vraiment important. Hein, c'est de pas rester trop nombriliste et aussi d'évoquer ce qui se passe dans le monde entier. Je trouvais ça important et je voulais saluer la Croix pour ça. Je trouve ça super. Merci Kira. Merci beaucoup pour le deuxième mois d'abonnement, c'est adorable. Merci d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir partagé ce moment d'information. Je vous retrouve demain matin, je pense, pour la matinée Étienne, la 1, 2, la quatrième en direct depuis le Maroc. Et on se retrouve aussi demain soir, ça c'est important, pour. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai fait un petit tweet là-dessus. Regardez le président Macron en direct. Ah. Ok. Attendez, je vous montre ça. Je suis en train de lire un message d'un ami streamer que j'aime beaucoup. Alors, petit, voilà, ça c'est le rendez-vous que je vous donne demain soir. Hop. Ici, Emmanuel Macron sur Twitch, mercredi soir, en coproduction et partenariat avec France Télévisions, je vous propose de regarder, et on est sur Twitch, c'est ça qui est intéressant, de commenter ensemble le second entretien exclusif du chef de l'État dans la nouvelle émission politique de France 2. Il y a 15 jours, on a regardé le premier volet de cette interview en direct, donc dans l'événement qu'est la nouvelle émission politique de France 2. Le président Macron a essentiellement abordé des questions internationales, et donc demain soir, à partir de 20h20, eh bien, le président Macron, cette fois interrogé toujours par Caroline Roux, va surtout parler de la situation intérieure en France. Ça devrait être intéressant. 20h20 pour le début de l'interview. Je vous donne rendez-vous à partir de pardon, 19h30 pour poser un petit peu le contexte, pour faire un petit before. 19h30 pour le before, 20h20 pour regarder ensemble l'interview. On fera des petites pauses de quelques secondes pour commenter. Et puis à partir de 21h20, eh bien on fera un petit débrief pendant 1 heure de tout ça. Je vous donne rendez-vous demain. C'est demain soir, c'est mercredi soir. Voilà. Maintenant, on va faire un petit raid. Je vous laisse. Merci ArtPixel pour le 6e mois d'abonnement. C'est adorable. À demain. À demain. Marwan53, je n'avais pas vu. Merci pour le 3e mois. Merci à tous les deux. Donc rendez-vous demain. Et maintenant, proposez-moi dans le chat des noms de streamers, de streameuses qui sont en live actuellement. Pas forcément ceux qui ont déjà des grosses communautés, plutôt ceux qu'on pourrait aider, voilà, qui proposent un chouette contenu et qu'on va un petit peu soutenir et éclairer par notre raid. Je vois qu'il y a déjà des propositions. Ok, je vous mets une petite fenêtre de pause. Je vous mets une petite musique. 2 minutes chrono, pas une seconde de plus de musique ou de pub. Et on se retrouve dans 2 minutes pour un raid tous ensemble à partir de vos propositions. A tout de suite. Party at my funeral where no one has to grieve. Drink and dance the night away where no one dares to leave. Don't make me turn this car around, driving us into the ground. So I pedal to the metal as the engine kicks and screams. Pushes to the limit till it runs right out of steam. I fade away in cruise control. The distance starts to take its toll. So let's start again. Wake me up. I'm not getting younger. Hold me up. I can't wait much longer. Someone take me out of my misery. In the middle of the night is where it seems to